Amour de ciné, Love My Cinema et Auskult sont les invités de La Grande Table de Peli, présentée par Greg Italo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Grande Table de Peli. Alors comme vous le savez, toutes les 4 semaines, nous avons un grand format voilà, qui arrive le lundi. Alors la fois dernière, c'était un Peli Cash que vous connaissez tous. Aujourd'hui, c'est la Grande Table de Peli. Très heureux de pouvoir discuter cinéma avec des invités. Et aujourd'hui, autour de cette table, nous avons Julien de Amour de Ciné. Bonjour Julien, comment vas-tu ?
Bonjour, bah écoute, ça va super, et toi ?
Bah ouais, ça va, je te remercie d'être présent. Julien, tu es critique cinématographique, avec notamment ta page Instagram Amour de Ciné, et sur Sens Critique, il me semble aussi, et il me semble que tu as été pris aussi sur le site Dois-je le voir, c'est ça ?
Ouais, tout à fait, depuis quelques semaines maintenant.
Ah, c'est top. Tu as été aussi assistant réalisateur sur des courts-métrages et tu es spécialiste de films de festival, notamment le festival de Cannes et le festival de Deauville. Donc nous t'accueillons avec grand plaisir. On accueille aussi Love My Cinema. Bonjour, comment vas-tu ?
Ça va bien et toi ? Très content d'être ici.
Eh ben, ça nous fait plaisir aussi de t'accueillir. Tu es auteur de critiques et d'articles de cinéma. Tu es notamment spécialiste du cinéma d'animation des années 90 jusqu'à 2020. Et enfin, on continue et on finit, se trouve aussi autour de cette table, Oscar. Bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour, bah écoutez, ça va super, et vous aussi, j'ai l'impression.
Carrément. Oscar, tu viens de la page Auskult, c'est ça ? Critique de cinéma averti, tu es spécialiste du cinéma de genre, notamment horreur fantastique, c'est bien ça ?
C'est exactement ça, c'est par là que je suis entré dans le cinéma, et c'est par là que je continue à adorer le cinéma.
Ah, c'est top. Bah, c'est bien aussi de se spécialiser notamment dans un genre. Alors après, c'est vrai que c'est sûr que je pense que tu ne manques pas de tu manques pas de films ou de séries pour pouvoir les commenter en ce moment, vu qu'il y en a quand même pas mal. Donc j'imagine... Tiens, c'est une vraie question, c'est quoi ton film préféré dans ce genre-là, horreur fantastique ?
J'ai longtemps pensé que c'était L'Exorciste, parce que c'est vraiment le premier film d'horreur qui m'a vraiment bien fait flipper. Et en fait, j'ai découvert un peu plus tard Massacre à la tronçonneuse. Et là, pour le coup, ah oui. Ça a été vraiment un énorme choc. Et, ouais. Et je pense que non seulement c'est mon film d'horreur préféré, mais peut-être mon film préféré tout court.
Ouais. Tu m'étonnes. Alors moi, je suis pas trop horreur. C'est pas trop mon truc, quoi. Moi, j'aime pas avoir le sentiment de peur. J'aime pas ressortir la peur. C'est une émotion que j'aime pas trop. Mais bon, je peux comprendre que on aime bien se faire peur. Enfin, ceci dit, Julien m'a quand même confirmé que il y avait quelques films qui étaient classés horreur, mais qui en fait étaient plus du nanar et d'une comédie familiale, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Julien?
Malheureusement, je trouve que surtout les sorties récentes sont assez décevantes niveau horreur. Ce que j'ai pu voir récemment, mis à part La Main, qui est plutôt efficace pour les amateurs du genre, c'est un petit tour de train fantôme sympathique. Le reste aussi entre quand même la comédie familiale ou le film méchamment ennuyant.
Ah oui, ouais, l'ennui. À différence du nanar et du navet, c'est que le navet on s'ennuie. Le nanar, on rigole bien devant. C'est quoi le dernier film devant lequel t'as bien rigolé, Julien, en termes d'horreur ? La Nonne ?
Alors, La Nonne, je te dirais ça. Normalement, je le vois mardi soir.
Donc, ouais. Oui, bah oui.
Il y a La Nonne ou même Mystère à Venise qui sort aussi, enquête horrifique avec Hercule Poirot. Franchement, voir un détective moustachu combattre des esprits, je m'attends à une grande soirée.
Ah, ça peut être sympa. Alors, c'est sûr que l'horreur et le fantastique, c'est pas du tout dans la spécialisation de Love My Cinema. On est plutôt sur de l'animation, mais est-ce que Love My Ciné, est-ce que tu as vu des films d'horreur, ou est-ce que t'es pas trop, c'est un genre auquel tu n'es pas trop attaché?
Moi, c'est pas compliqué. Le dernier film d'horreur que j'ai vu, c'est Arthur Malédiction, au cinéma.
C'est bon ça.
C'était.
Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comme film, c'est un film. C'est, je sais pas si c'est un film. Enfin, je sais pas comment on pourrait définir ça.
On peut définir ça comme un bal masqué au fin fond de la campagne française où Luc Besson s'est dit je vais inviter des étudiants pour faire un film.
C'est bon ça.
Avec Papy Michel. Je pense que non, en vrai, je suis mon compte. Il est pas très basé horreur, tout simplement parce que comme toi, je suis pas forcément fan d'avoir peur.
Ouais.
Même si je me force parce que je sais que c'est un joueur très important du cinéma et pour m'obliger à le faire, j'invite toujours des comptes horreur. Comme ça, ils me font mon boulot à ma place et ils écrivent des textes pour parler horreur. Gros bisous à Terrordrome s'ils voient ça. Mais non, mais sinon l'horreur c'est pas mon truc, j'avoue, je suis pas forcément passionné, mais je me force à quand même regarder.
Ouais, bon, c'est vrai que c'est un genre un peu particulier. C'est vrai que des fois il faut sortir un peu de sa zone de confort, il faut savoir aller vers des genres qu'on n'a pas l'habitude de regarder, qu'on n'a pas l'habitude de commenter ou sur lesquels on n'a pas l'habitude d'écrire des critiques, parce que ça permet d'avoir différents horizons et c'est tout à fait vrai. Alors aujourd'hui, messieurs, le sujet qui va nous occuper, c'est un sujet ultra important. Je pense qu'il va avoir beaucoup d'impact. Déjà, il en a actuellement, mais je pense que les prochaines années vont certainement, en tout cas l'année prochaine, va être certainement compliquée pour notre art cinématographique, parce que le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la grève des scénaristes. Qu'en est-il et vers où se dirige le cinéma? Alors, bien évidemment, on va suivre quand même une petite trame petit à petit. On va quand même commencer déjà par évoquer quelque chose qui est important, le métier de scénariste, qui est parfois pas très bien connu, d'autres fois où les gens connaissent très bien ce métier, mais le confondent un scénario et une histoire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, je pense qu'il est nécessaire de revenir sur qu'est-ce qu'un scénariste, quelles sont ses fonctions, quel est son rôle, quels sont les prérequis professionnels de ce métier. Alors, au-delà du fait que le scénariste, c'est un peu celui qui, on va dire, écrit l'histoire, les dialogues, etc., etc., la fonction est quand même ultra importante dans le métier du cinéma, parce que sans les scénaristes, je pense qu'il y a beaucoup de films qu'on pourrait pas voir. Donc, et malheureusement, c'est un métier qui, est-ce qu'il est en voie de disparition ou non? Justement, c'est un peu l'objet qui va nous occuper aujourd'hui. Je vais demander à Oscar de Oscult, qu'est-ce qu'un scénariste, du coup? Selon toi, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa fonction dans un film?
Alors, il y a déjà plusieurs manières d'aborder le scénariste. Il y a le scénariste qu'on peut appeler auteur, qui lui va écrire son histoire de son côté. Il n'est pas forcément financé de base. Il va après le proposer à des producteurs, et même un scénariste n'est pas forcément réalisateur. Ça arrive que des réalisateurs écrivent leurs propres films, il y en a beaucoup, mais un scénariste, c'est de manière pure et simple, c'est vraiment quelqu'un qui écrit un scénario, donc une continuité dialoguée, qui écrit une histoire, un synopsis, c'est plein d'éléments qui font un scénario. Et puis il y a aussi les scénaristes qui sont engagés par des producteurs. Bah, je peux prendre l'exemple le plus simple, par exemple à Marvel. Chaque projet est initié par des producteurs. Par exemple, on va faire un film sur tel personnage, il n'y a pas de scénario qui existe, et on va engager des personnes qui sont plus ou moins attachées au studio avant ou après pour écrire un scénario qui est cette fois est financé directement par le producteur avant même d'être écrit. Donc ces scénaristes-là, que ce soit au cinéma ou à la télé, et même on parle de scénaristes pour des talk shows, les Américains utilisent beaucoup de scénaristes pour leurs talk shows, des auteurs, même en France d'ailleurs. Ces scénaristes-là sont employés par des producteurs et n'ont pas forcément la casquette d'auteur. Donc il y a vraiment cette différence, je pense, à faire, et c'est surtout ces scénaristes-là qui sont principalement en grève.
Ouais, tout à fait. Et alors justement, donc, quels sont, je vais demander à Julien, quels sont les prérequis selon toi, les qualités ou les prérequis professionnels d'un scénariste? Il a besoin de quoi clairement un scénariste pour travailler sur un film?
Alors c'est ce qui est assez intéressant avec la profession de scénariste, c'est que du coup, comme le disait Oscult très très bien, c'est une fonction essentielle pour la création d'un film, d'une série ou de talk show. Et pour autant, il n'y a pas de diplôme certifié pour être scénariste. Par contre, il y a des formations. Tu vas au CEA, le Centre Européen Audiovisuel, qui a une formation spécialisée de scénariste. Pas mal aussi d'autres écoles artistiques françaises ont des formations pour permettre et donner les bonnes clés de rédaction et de construction d'un scénario. On ne rédige pas, par exemple, un roman comme un scénario. Il y a des choses qui vont différer. Donc, on va avoir des formations qui existent et qui permettent de certifier un petit peu cette profession et de donner les bonnes clés à un scénariste en herbe. Après, à aujourd'hui, il n'y a pas de formation type, de formation clé, ni de parcours. On peut avoir des scénaristes un peu sauvages, autodidactes, tout comme on a des réalisateurs un peu autodidactes. Mais par contre, il y a des formations de cinéma, de réalisateurs. Par contre, une formation type de scénariste, ça n'existe pas. C'est ce qui rend cette fonction à la un petit peu unique, un petit peu spéciale.
Ouais, et dans ça, finalement, on comprend bien quand même que c'est un métier qui est spécial. C'est un métier pour lequel, certes, peut-être, il ne faut pas avoir fait beaucoup d'années d'études ou beaucoup de diplômes, mais c'est une formation à prendre en compte, c'est un certain type de travail, c'est une organisation. Après, il y a aussi une signature. On sait qu'il y a des scénaristes qui ont leur propre code, leur propre signature. On le reconnaît même quand on regarde les films, on se dit « Ah, ça, c'est un scénariste, c'est un scénario, pardon, de tel type de scénariste. Love My Ciné, elle est assez simple. Ma question, c'est est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le métier de scénariste, il est en danger? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un métier qui... Est-ce qu'il est en voie de disparition? Est-ce qu'aujourd'hui, on a la place du scénariste, elle est clairement en danger dans l'industrie cinématographique?
Pour répondre à la question, c'est tout simple. Pour moi, c'est pas, on va dire, l'organisation qui entoure tout le monde du cinéma américain et autres qui va choisir. C'est tout simplement le public. Si le public va s'attacher à des films écrits de très mauvaise qualité ou par des IA potentiellement, parce qu'on va partir de cette idée-là, là complètement, ça va totalement être en danger. Pourquoi payer des gens alors qu'on fait la même rentabilité avec des films mal écrits? Ou écrit à la trait à la va-vite, alors que pourtant, honnêtement, le métier de scénariste, pour moi, ça fait partie d'une des quatre catégories essentielles à la création d'un film, si on enlève le côté financier. On a les acteurs, les réalisateurs, les VFX, effets spéciaux, si on en a besoin, et les scénaristes. Les scénaristes, ils écrivent le scénario, et c'est à double tranchant, parce qu'un film, à la base, c'est quand même un scénario, très souvent quand même, sauf Marvel, mais très souvent. Et à la base, c'est quand même un scénario, c'est à double tranchant. Si le scénario est mauvais, comment on va faire un bon film? C'est-à-dire que le réalisateur va devoir rattraper potentiellement divers problèmes. Mmh. Et ou c'est un excellent scénario, et après, normalement, tout va amener à un bon film, s'il n'y a pas de problème extérieur à celui-là. Et scénariste, pour moi, c'est vraiment la première pierre de l'édifice. Ce sont les gens qui portent le monde du cinéma, parce que sans scénario, il n'y a pas de film, et sans film, il n'y a pas de studio, et sans studio, il n'y a pas Bob Iger.
Alors justement, merci de finir sur cette note d'humour. Justement, en fait, c'est ça, c'est que si on essaie d'imaginer un monde cinématographique sans scénariste, ça ne peut pas exister. Parce que moi, je pense effectivement que c'est la première pierre de l'édifice, peut-être même les piliers de la maison ou du grand temple. Voilà. Mais aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on rentre peu à peu dans une crise. On a un contexte de crise, on a des revendications aussi de la part des scénaristes. Pourquoi ? Parce que c'est l'objet de la question. On a une grève, très clairement, qui a éclaté. Clairement. Quel était le contexte de la crise et qu'est-ce qu'il demande, Auskult ?
Alors, déjà, je vais juste expliquer rapidement comment fonctionnent les syndicats, parce que c'est vraiment les syndicats qui sont en grève. Donc, en gros, il y a deux syndicats très importants à Hollywood. Il y a la WGA, donc attention, accent anglais, Writers Guild of America. Donc, c'est le syndicat des scénaristes américains. Et en gros, pour travailler à Hollywood, il faut obligatoirement appartenir à ce syndicat. C'est-à-dire que c'est le syndicat qui régit les règles établi par les professionnels pour qu'un contrat soit légal. Et donc, si un scénariste n'appartient pas à un syndicat, il ne peut tout simplement signer aucun contrat. Et c'est pareil, évidemment, pour la SAG, donc la Screen Actors Guild, qui comprend les acteurs, mais aussi plein d'autres artistes, notamment des danseurs, des DJ, des cascadeurs, des doubleurs, des annonceurs, des journalistes. C'est plein de métiers qui rentrent dans ces syndicats. C'est pas seulement que les acteurs et que les scénaristes qui sont en grève, c'est vraiment tout un florilège de métiers hollywoodiens. Et donc, ces syndicats-là sont en grève. Alors, ça a commencé déjà avec les scénaristes, tout simplement, parce que les scénaristes sont de moins en moins bien payés pour un boulot beaucoup plus exigeant, parce que les délais de production sont bien plus minimes pour tous les films de studio. Généralement, un film rentre en production un an quasiment avant sa sortie, ce qui est, pour des films à très gros budget, complètement irréalisable. Et donc, les scénarios sont écrits soit à la va-vite, soit en cours de tournage. Et donc les scénaristes sont totalement essoufflés, essorés, ne peuvent plus rendre un travail parfait. C'est très simple, il y a beaucoup eu d'interviews par exemple pour un film comme The Flash qui a été une débandade artistique totale. Et en fait, si jamais vous vous dites qu'un plan a été fait en une semaine, a priori c'est que ça a été le cas. Si le film est mal écrit, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas été écrit. Comme le dernier par exemple Fast and Furious, chaque page était écrite pour le lendemain. Donc pour apprendre un texte, pour juste même pour le réalisateur savoir ce qu'il va filmer, c'est tout simplement impossible. Et donc toute cette tension à Hollywood conduit les scénaristes à rentrer en grève, et puis aussi il y a la question du paiement, tout simplement, parce que les scénaristes sont très très mal payés. Alors aux États-Unis, contrairement par exemple à la France, on est plutôt bien loti là-dessus, l'assurance maladie, elle est pas cadeau, elle est pas donnée. En gros, pour toucher l'assurance maladie aux États-Unis, il faut gagner $26,000 par an. Donc ça paraît pas énorme dit comme ça pour des métiers américains, surtout à Hollywood où on pense que l'argent coule à flot, mais en fait, a priori, d'après certaines sources, c'est seulement 87% des membres de ces syndicats-là qui touchent suffisamment pour avoir l'assurance maladie. Donc effectivement, pour des scénaristes et pour des acteurs, c'est pas viable. Beaucoup ont un deuxième emploi, beaucoup ne peuvent même plus devenir scénaristes parce que c'est trop compliqué pour eux de finir les fins de mois. C'est pas vraiment un caprice de star, je sais que c'est beaucoup revenu, notamment au début, on avait l'impression que c'était des acteurs multimillionnaires qui demandaient plus. Non, c'est vraiment la plupart des gens dans ce milieu-là ne peuvent déjà plus travailler correctement à cause, comme je l'ai dit, de cette surabondance de production, mais aussi tout simplement parce qu'ils ne sont plus payés.
Oui, après il faut quand même signaler qu'il y a quand même pas mal de scénaristes qui, quand même, il me semble, qui vivent en dessous du seuil ou à la limite du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de contrats ou qui sont mal payés. Cette dimension financière, elle n'est pas exclusive, c'est-à-dire que c'est pas que ça qui a fait éclater la grève, etc. Je pense qu'il y a aussi derrière effectivement les conditions de travail, tout ça. Mais la question financière se pose réellement parce que il y a des scénaristes, que ce soit sur des low budget films, donc des films à petit budget ou des grosses productions, les scénaristes en général sont quand même pas très très bien payé. Bon, après, c'est sûr que sur des scénaristes, sur des très grosses productions, puis pour le peu que le film cartonne après, certainement qu'ils ont des droits dessus. Ça, j'avoue que je ne suis pas spécialiste pour le dire. Mais la question financière, elle est quand même très très très... elle doit certainement revenir au premier plan. Julien, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça?
Oui, alors, du coup, tout à fait. Ausculte l'a très très bien décrit. L'aspect financier, c'est l'un des gros... certainement le plus gros... la plus grosse revendication des deux syndicats, donc la Writers Guild of America et la SAG-AFTRA, parce que du coup, comme on le disait, il y a le revenu, donc ce que le scénariste va être payé pour la production, l'écriture d'un film ou d'une série. D'ailleurs, la Writers Guild of America pointe aussi du sujet du doigt les studios comme Netflix et Amazon pour faire des séries avec des sons qui sont toujours plus ramassés, toujours moins d'épisodes, donc ne permettant pas déjà aux scénaristes d'exploiter complètement leur matériel, et surtout moins d'épisodes, moins de temps de travail, donc des cachets qui sont moins importants. Et l'autre source de revenus qui est très important, que ça soit pour les acteurs comme pour les scénaristes, c'est les revenus résiduels. C'est par exemple sur Netflix, une des actrices expliquait que pour la saison Orange is the New Black, les revenus d'exploitation à l'étranger, à l'international pour cette série, n'était que de $27. C'est absolument ridicule. Ouais, ouais. Le plus gros sujet, c'est sur les plateformes où, à aujourd'hui, les acteurs et les scénaristes ne touchent quasiment aucun revenu résiduel sur l'exploitation de leur série ou de leur film sur ces plateformes-là. Et le souci principal, c'est que c'est ces revenus résiduels qui font partie intégrante, et même c'est la majeure partie du revenu des acteurs et des scénaristes. Et à aujourd'hui, c'est aussi là-dessus que les deux syndicats vont venir se battre. C'est un combat qui est plus compréhensible. Et aussi, la nouvelle technologie grandissante, l'intelligence artificielle, où les syndicats, du coup, des scénaristes et des acteurs veulent plus de protection sur l'utilisation de ces nouvelles technologies, que ça soit notamment Netflix ou Amazon, qui tentent d'expérimenter les intelligences artificielles dans la génération de bouts de script. Donc commencer à se dire comment on peut allier les deux et se dire, attendez, posons des limites, défendons le droit des travailleurs, parce que ce qu'on oublie assez rapidement, on voit en général, on se dit le cinéma c'est les festivals, c'est les Oscars, c'est le strass, les paillettes, le glamour, mais on oublie que c'est une industrie, et quand on parle d'industrie, on parle de travailleurs. On vient pas défendre les intérêts d'un Tom Hanks, d'une Meryl Streep, d'une Scarlett Johansson, mais là c'est vraiment venir défendre l'ensemble des travailleurs de l'industrie, et même les grosses têtes d'affiche viennent aussi porter leur voix en disant que c'est un combat pour tous les acteurs de cette industrie-là. Et c'est à mon sens un combat qui sera de longue haleine, mais qui est plus que nécessaire.
Ouais, tout à fait. Un combat de longue haleine et un combat aussi que nous, en tant que spectateurs, on vit finalement. Parce que quand on aime le cinéma, ça nous fait un peu mal de voir que les scénaristes sont... Enfin voilà, sont pas bien payés, sont finalement peuvent être remplacés. On le disait tout à l'heure, Love My Ciné le disait. Est-ce qu'on peut effectivement considérer que c'est une profession qui est en danger, en devenir? Ça fait mal quand on aime beaucoup le cinéma, quand on est cinéphile, mais quand on sait aussi le travail que ça demande et l'inspiration artistique. On l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit toi-même, Julien, il n'y a pas forcément d'école ni de diplôme, mais il y a des formations et un savoir-faire derrière. Et c'est finalement rendre à néant ce savoir-faire pour ne plus l'utiliser. Donc c'est des fois, en tant que spectateur, on le vit peut-être assez mal. Love My Ciné, une question, comment toi tu vis cette grève des scénaristes? Comment ça peut toucher? Comment on peut, en tant que critique de cinématographique et rédacteur d'articles, comment on voit de loin cette grève?
Honnêtement, comment le vivre? Je dirais juste que oui, ça me saoule comme tout le monde que Dune 2 sort en mars prochain. Oui, ça me saoule que mon film préféré, que des tas de séries soient repoussées 2024, 2025. Oui, il va y avoir un grand vide dans le cinéma américain et ça va faire énormément de mal à toutes les salles en France et autres. Oui, je veux bien le comprendre. Croyez pas, s'ils ont pas commencé à tourner Avatar 8, ça sortira pas avant 2040. Et c'est juste que je me dis que non, honnêtement, ça en tant que spectateur, oui, ça me saoule. Mais en tant que rédacteur d'articles et autres, je me dis finalement, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Est-ce que c'est pas un mal à l'heure actuelle pour nous? Mais est-ce que c'est pas un bien pour nous proposer les meilleures productions? Parce que honnêtement, si les gens ils seront mieux payés, je parle bien sûr ici des scénaristes, des petits acteurs de série B qu'on voit que dans un épisode et qu'on voit plus jamais, qui touchent vraiment une misère, alors que franchement ils travaillent. Il y a qu'un seul Tom Hanks, hein, mais il y en a peut-être 1 million qui ont essayé d'être comme lui. Et qui tournent dans des séries et qui, franchement, je suis sûr que peut-être qu'il y en a qui se la donnent pas à fond, mais il y en a tellement qui se donnent à fond. Il y en a tellement qui sont heureux et qui rêvent de vivre dans ce monde qu'est le cinéma. Tellement qui fait rêver tout le monde. Même moi, quand j'étais petit, je voulais être réalisateur. Depuis, je veux être prof. Et c'est là que je me dis que tout a changé. Mais...
Ah, les deux ne sont pas... Tu peux marier les deux, attention.
Oui, je vais faire un film sur ma classe. Quand j'en aurai une. les blagues de Toto 34.
Non mais oh, du... pitié.
C'est pas mal ça. C'est pas mal. Avec Elise Moon.
Oh non, lui c'est du cobu. On va le laisser là-bas.
Ouais, mais tu peux le prendre quand même, tu fais un crossover.
Ouais.
OK, je quitte ce podcast.
Là, du coup, je voulais dire que honnêtement, en tant que quelqu'un qui essaye de se renseigner le plus possible, je me dis que finalement, c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait cette grève, et je préfère honnêtement qu'elle soit maintenant le plus tôt possible pour éradiquer le mal tout de suite, que plutôt qu'elle ait lieu dans 4 ans et que l'intelligence artificielle ait déjà pris leur place, en fait. Ça aussi, c'est une vision qui me terrifie pas mal, j'espère qu'on pourra en parler après, mais c'est une vision du futur du cinéma qui me fait extrêmement peur pour ma passion, pour ce que j'aime.
Bien sûr, alors ouais. Bien sûr, c'est un vrai sujet, hein, ça, l'intervention de la IA, etc. Julien, tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, il y avait une petite anecdote assez rigolote, entre guillemets. Là, la dernière saison de Black Mirror est sortie sur Netflix. Ouais. Et justement, les showrunners avaient expliqué que dans les sujets de l'intelligence artificielle, ils avaient tenté de faire un script uniquement généré par une IA. Ils ont fait des tests, ils ont essayé de moudre un scénario, et le résultat qui en est sorti était absolument catastrophique. et à leur sens, c'était de loin le pire scénario qu'ils avaient pu lire.
L'abonnement de ChatGPT n'a pas été rentable.
Non, pas du tout. Donc, on est encore loin d'avoir une IA qui puisse générer quelque chose à elle seule. Après, c'est une technologie, on n'en est qu'aux prémices encore à aujourd'hui de l'IA, les intelligences génératrices. Par contre, c'est déjà une technologie qu'on utilise énormément pour corriger ou pour générer en complément du boulot de scénariste. Et je pense que beaucoup de scénaristes peuvent tout à fait se dire que ce combo est plutôt intéressant. Par contre, la crainte, et c'est pour ça que le débat et le combat qui est mené aujourd'hui, c'est venir réglementer l'utilisation de cette intelligence pour qu'elle ne soit qu'un complément, qu'une aide au scénariste, qu'un travailleur qui coûtera beaucoup moins cher à un studio. Parce qu'on sait très très bien, surtout dans une industrie aujourd'hui où on voit là, les chiffres au box-office récemment, qui ne sont pas foufous pour la plupart des studios.
Ça dépend des films de qualité. Parce que...
Oui, après, évidemment. Mais à aujourd'hui, pour les studios, ils ne voient que les chiffres. La qualité, c'est pas toujours une priorité absolue. Sur des films qui leur coûtent cher, le Covid n'a pas forcément aidé certaines productions, évidemment. Des contre-performances, que ça soit dans à peu près tous les studios aujourd'hui, l'intelligence artificielle est évidemment pour eux une solution d'économie à long terme. Ce qui peut être entendable, mais attention à ne pas dévier, et c'est le but justement de ces négociations entre guillemets entre les syndicats.
Alors c'est le problème de tous les progrès technologiques.
Oui.
J'aimerais rajouter quelque chose si c'est possible. Ça serait parlé, parce qu'on parle beaucoup des scénaristes, des acteurs, faut aussi parler des VFX, des effets spéciaux. Et en fait, il y avait quelque chose qui m'a marqué, ça m'a même fait arrêter la série, parce qu'à quel point j'étais dégoûté. Le générique de Secret Invasion. Qui a été fait entièrement en intelligence artificielle. Et finalement, c'est le plus dégueu, que j'ai vu pour Marvel. Du coup, résultat, non. En fait, on rentre, on voit le début, on comprend le délire, et finalement, après 30 secondes, on se dit que, on dirait une vieille peinture dessinée par un enfant de 5 ans, avec plein de couleurs partout, mais qui veut rien dire. Il y a rien qui va. C'est à croire que c'est vraiment une catastrophe. Et dites-vous que les génériques de fin, je crois que c'est la même chose, et ça donne pas envie de les regarder, ça je peux vous l'assurer. Et non, honnêtement, ça me terrifie aussi cet aspect-là. Je suis d'accord avec Julien qu'il faut affirmer ce propos de « c'est une aide ». Ça doit aider les gens à faire, entre guillemets, les tâches les plus ardues. Par exemple, si ça corrige toutes les fautes d'orthographe, tous les trucs comme ça dans un scénario, ça, je suis OK. Si ça peut vous donner une idée, imaginons par un exemple, une idée de base, et ensuite on construit tout le scénario, on l'écrit à la main, mais c'est parti d'une idée originale d'une IA. Ça me fait un peu peur, mais ça me dérange pas tant que ça, tant qu'il y a vraiment une trace humaine dans le scénario. En fait, l'aspect robotique de la chose me terrifie, parce que sinon on va manger toujours la même chose. C'est déjà le cas avec DC, alors qu'il y a des humains déjà derrière. Ça c'est déjà le cas. Et du coup, franchement, honnêtement, ça me fait peur cet aspect-là. Ça me fait peur.
Ah, c'est le problème de la technologie et des progrès. Et c'est comme tout, hein. Vous savez, on peut comparer ça à la VAR dans le football. C'est plus il faut le voir comme un outil plutôt que de remplacer l'arbitre central. Là, c'est pareil. Il faudrait que la IA soit un outil et une aide plutôt que de remplacer le scénariste en lui-même. Moi, je pense que en fait, c'est un peu les IA, on y reviendra, hein, mais c'est un peu le même problème qu'on peut avoir de toutes les nouvelles technologies qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans les années 2020 et peut-être 2030. Il y en a certaines qu'on ne connaît pas encore et qui sortiront, on l'espère, parce que c'est ça qui fait le futur. C'est un peu ça ce qu'on voit dans le cinquième élément ou dans iRobots. Mais à un moment donné, il faut les réglementer et c'est peut-être une des revendications qu'il y a. Alors justement, par rapport à cette grève des acteurs, les syndicats, parce qu'on va quand même revenir un peu sur les syndicats, ils ont un réel pouvoir quand même sur l'activité hollywoodienne, peut-être, si on compare par rapport à l'Europe, c'est pas tout à fait le même fonctionnement, c'est pas du tout la même chose. Le rapport aux forces, le rapport au pouvoir aux États-Unis, il est quand même, je pense, bien différent. Est-ce qu'on peut penser, en revanche, qu'on ira vers une espèce de globalisation de la grève? Est-ce que la grève va s'étendre? Est-ce qu'elle aura un énorme impact sur l'échelle internationale? Ça, c'est une vraie question pour qu'est-ce qui va se passer, en fait, par rapport à aujourd'hui, ce qui se passe, mais ce qui va se passer plus tard, Julien?
Oui, alors complètement. Ce qu'il faut bien se dire pour remettre un petit peu en contexte historique aux États-Unis, c'est que malgré un peu l'image qu'on a de se dire les États-Unis, l'État capitaliste par excellence, tout ce qui est secteur industriel ont des syndicats qui sont extrêmement forts. Il y a depuis maintenant les années 50-60, une volonté aussi d'aller essayer de casser ces mouvements syndicaux. Et ça ne fonctionne pas, à tel point que là, on parle de la grève des acteurs et des scénaristes, mais ça rentre aussi dans un mouvement plus global aux États-Unis de grève massive sur différents secteurs, à tel point qu'il y a le secteur des transporteurs, donc tout ce qui va être UPS, FedEx et autres, qui là, à peu près, c'était il y a quelques semaines, on n'a même pas eu besoin de faire grève, simplement venir tirer la sonnette d'alarme, du coup, aux employeurs en disant « attention, ça peut tomber ». On a des conditions qui ne sont pas bonnes, et si vous ne nous entendez pas, la grève tombe. Il n'y a même pas eu besoin d'aller plus loin. Un simple signal d'alerte de la part des syndicats, et d'un coup, la négociation s'est ouverte, et des revalorisations ont été faites. Donc c'est vraiment pour dire que, aux États-Unis, ce qu'on appelle les unions, donc les syndicats, ont un pouvoir extrêmement fort. Et c'est le cas notamment, du coup, sur aussi l'industrie cinématographique, à tel point que, du coup, maintenant, depuis le mois de mai, et juillet, donc mois de mai, le 2 mai, début de la grève des syndicats, la Writers Guild of America enclenche son mouvement de grève. Au mois de juillet, le 14 juillet exactement, cocorico pour nous, les acteurs viennent se joindre à nous, à cette lutte-là. Donc c'est Fran Drescher, la présidente de la SAG-AFTRA, qui est connue pour certaines personnes dans la série des années 90, Une nouvelle d'enfer, qui annonce qu'elle va venir joindre. Donc, du coup, les deux syndicats unissent leurs forces. C'est pas une première historique. C'est la deuxième fois que les syndicats se joignent dans une cause commune. La dernière fois, c'était dans les années 60. Et justement, c'est là où c'est assez intéressant de le voir. Les deux syndicats s'étaient unis lors de l'apparition de la diffusion de certains contenus à la télévision. Et donc, question de reversement, justement, de royalties. Et, en plus, négociation de couverture de la sécurité sociale et des retraites. Et là, comme de par hasard, maintenant la plateforme de SVOD arrive et on va justement venir parler de redistribution des bénéfices. Et ce qui se passe, c'est que à partir de maintenant, depuis maintenant le mois de juillet, les tournages sont arrêtés. Les acteurs, donc la SAG-AFTRA, c'est à peu près 160 000 acteurs qui sont quand même sous cette union-là. Ce n'est pas rien. Il n'y a pas que les grands noms. Tous les acteurs, même voilà, les plus petits, les plus modestes, des seconds couteaux, sont sous cette égide-là, les studios, les productions, les tournages sont arrêtés, et ça va même jusqu'à la promotion des films. Là, on l'a vu à la Mostra de Venise, comme au Festival de Deauville, qui sont quelque peu désertés, des acteurs ne viendront même pas recevoir leur prix par solidarité, mais d'autres acteurs ne peuvent même pas aller dans ces festivals-là pour faire la promotion. Exception faite, on a vu pour Adam Driver, qui va faire la promotion de Ferrari, de Michael Mann, parce que du coup la SAG-AFTRA l'a autorisé, car il y a une petite exception sur les films indépendants, donc ils ne sont pas financés que par des grosses majors, mais par des studios plus modestes, pour les permettre quand même d'essayer de vivre. Sur le reste, les acteurs ne font plus de promotion, c'est pour ça notamment aussi que Dune 2 a été décalé en 2024, parce que des gros blockbusters sans promo, sans acteurs, c'est compliqué pour les studios. Ce qui fait qu'il y a un véritable rapport de force. Les studios, légalement, ne peuvent pas dire « Non, 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 tu as un tournage, tu reviens. » Non, ce n'est pas possible. On met en pause jusqu'au moment où un accord sera trouvé. Pour l'instant, c'est compliqué. Il y a eu des négociations qui ont été ouvertes. On n'a pas réussi à trouver de terrain d'entente pour le moment. Des conditions météo ont aussi un petit peu entaché. Il y avait eu un ouragan il y a quelques semaines de ça qui a coupé les négociations, et à aujourd'hui les studios restent fermes, On se souvient aussi par exemple de Bob Iger, le PDG fameux. Du coup de Disney,
le grand,
le fameux, on revient toujours le grand, calmons-nous, qui disait que les demandes aujourd'hui n'étaient pas réalistes. Aucun studio n'est d'accord pour entendre les revendications des syndicats de la Walt Disney of America ou de la SAG-AFTRA. C'est-à-dire une revalorisation, on parle d'une proposition par exemple de redistribuer 2% des profits des studios. Après, au prorata, les détails sont à voir, mais à aujourd'hui, les studios préfèrent mettre en pause leur production, décaler leur calendrier, plutôt que de venir reverser 2% pour les acteurs et les scénaristes. On est sur un rapport de force qui est extrêmement fort, qui est déjà arrivé. Les scénaristes avaient fait grève déjà dans les années 2010, une grève qui avait déjà duré longtemps pour une revalorisation de leur rémunération. Pour les acteurs, c'est moins courant. C'était justement dans les années 60 la dernière fois, pour leurs droits audiovisuels, d'audition à la diffusion. Maintenant, on en revient. Et pour rebondir, c'est un petit peu regardé à l'international. La Corée du Sud regarde ça de très très près et commençait à faire quelques échanges justement avec la SAG-AFTRA pour potentiellement renégocier aussi leurs conditions salariales. En Europe, c'est plus timide. Notamment en France, où du coup ça rebondit avec ce que disait Love My Cinema, ce que tu disais Loi, on en parle assez peu, et même d'un point de vue de l'industrie française, quelques acteurs ont affiché leur soutien. On pense à Léa Seydoux qui ne
vit que pour les États-Unis.
Ne nous honore pas de sa présence en festival parce qu'elle estime qu'elle ne peut pas venir jouir de sa position en festival tant pendant que des milliers d'autres personnes dans une industrie voisine est en train de se battre pour leurs conditions de vie, mais le marché, l'industrie française est très très timide sur ce qui se passe aux États-Unis. De manière globale, ce qui se passe, c'est que je pense que la plupart des syndicats et des autres industries regardent un petit peu de loin ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Ce sont des sujets qui vont forcément s'étendre. L'intelligence artificielle, les plateformes et leur politique de reversement et de redistribution des bénéfices vont arriver dans d'autres pays. Mais ce qui va se passer aux États-Unis, en tout cas à mon sens, je n'ai pas de boule de cristal jusqu'à aujourd'hui, et on aura l'occasion d'en reparler, vont certainement aussi faire des effets de jurisprudence et de maître étalon en termes de répercussions dans d'autres pays. Mais à aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, c'est très fort, et vont avoir un impact très important sur le calendrier des sorties, et sur le budget de certains films, et peut-être même être en danger certaines productions en série comme en film.
Oui, on voit d'ailleurs, on constate que le rapport aux forces n'est pas du tout la même chose qu'en Europe. On sait que les syndicats ont beaucoup, beaucoup de pouvoir. Ils sont capables même d'aller titiller, d'aller orienter, de demander finalement à ce que les acteurs rejoignent le mouvement, etc. etc. C'est sûr, Auskult, la question, elle est toute simple. C'est comment on peut tendre vers une généralisation beaucoup plus globale à l'échelle, je dirais, planétaire, pour aller atteindre les syndicats des autres pays, sachant que le rapport aux forces n'est pas le même, mais qu'aux États-Unis, les syndicats ont beaucoup de pouvoir, ce qui n'est pas la même chose qu'en Europe, en France, en Allemagne, dans les productions néerlandaises. Comment on peut avoir une espèce de généralisation pour que tout le monde s'accorde à dire que, oui, un scénariste, c'est quelqu'un qui est très important, qu'on ne peut pas remplacer, et qu'il a des droits et des revendications à donner?
C'est pas facile à dire, parce que chaque pays a ses législations très différentes. L'une des principales raisons pourquoi Netflix notamment n'accepte pas trop ces revendications auprès des scénaristes, c'est que justement ils craignent qu'il y ait une potentielle généralisation. Netflix, c'est l'un des rares studios, on va dire, vraiment implanté quasiment partout dans le monde et qui produit des contenus originaux dans tous les pays. On a des productions françaises de Netflix, beaucoup de productions maintenant coréennes et asiatiques, parce que c'est des contenus qui plaisent énormément en ce moment. Donc forcément, Netflix se dit, si jamais on accepte les revendications des syndicats américains, qui nous dit que demain ce sera pas la France, ce sera pas l'Angleterre, ce sera pas l'Allemagne, ce sera pas la Corée du Sud, qui vont se mettre en grève pour demander eux aussi une augmentation. Je connais pas toutes les lois propres à chaque pays, forcément, donc ça risque d'être très compliqué d'avoir la même chose, exactement la même chose aux États-Unis que dans les autres pays du monde. En tout cas, ça peut donner beaucoup d'idées, parce que Netflix est très opaque lié aux chiffres. on sait jamais quand ils annoncent un succès, on sait jamais vraiment à quel point c'en est un. Par exemple, là, One Piece fait 18 millions de vues. Concrètement, combien ça rapporte à Netflix, on n'en a aucune idée. Je pense que ça rapporte pas tant que ça, d'ailleurs. Et puis aussi, il y a eu beaucoup de changements liés à la pandémie. Il y a eu beaucoup de films qui étaient prévus de sortir au cinéma, qui finalement se sont retrouvés soit en VOD, soit en streaming, soit avec des sorties hybrides. Et en fait, ça, d'un point de vue contrat, enfin, personne n'avait signé pour ça avant, donc du coup, on sait jamais comment ça a été redistribué l'argent. Il y a le cas le plus célèbre de Scarlett Johansson, qui avait fait un procès à Disney pour la sortie de Black Widow, qui était normalement une sortie prévue pour le cinéma. Il y a eu la pandémie, le film a été maintes fois repoussé, finalement ils l'ont sorti aux États-Unis en tout cas, et au cinéma, et directement sur les plateformes, sauf que bah, Scarlett Johansson n'a reçu que l'argent lié à la sortie au cinéma. La sortie en VOD, c'était pas prévu de base, je pense qu'elle a pas touché grand-chose, et forcément ça a impacté énormément les revenus au box-office, donc beaucoup moins d'argent pour elle. Donc, évidemment, Scarlett Johansson, c'est pas forcément l'actrice la plus à plaindre, mais c'est un cas parmi tant d'autres, et si Scarlett Johansson a gueulé, c'est que je pense que pour d'autres acteurs, ça doit être très compliqué, et les studios ont beaucoup réduit la fenêtre entre une sortie cinéma et une sortie VOD, et je pense que ça influe que beaucoup d'acteurs ont reçu beaucoup moins qu'espéré. On a parlé beaucoup avec Netflix notamment, on parlait du cas de la série Orange is the New Black. Récemment, il y a Aaron Paul qui a aussi déclaré que pour Breaking Bad, il avait quasiment rien touché, alors que la série est maintes fois revenue en tendance, même ces dernières années, et que le succès de la série a notamment été stratosphérique, notamment avec sa sortie sur Netflix. Donc il y a tout ça qui est à prendre en compte, et je pense que Netflix, en tout cas les plateformes de SVOT, sont vraiment les cibles principales des syndicats, parce que on sait rien du tout de ce qui se passe derrière au niveau des chiffres.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Et justement, ça amène, on parle de toucher de l'argent et des revendications. Les scénaristes comme les acteurs, comment ça marche aux États-Unis, parce que certains ne savent pas, donc on va essayer d'expliquer. Est-ce qu'ils touchent l'argent avant dans leur contrat, avant de tourner le film? Est-ce qu'ils le touchent une fois que le film sort, ou est-ce qu'ils touchent l'argent en fonction des recettes et du box-office du film? Parce que ça, finalement, que ce soit l'acteur ou le scénariste, ça n'a pas tout à fait le même régime que ce soit en France ou même dans d'autres pays, mais comme ça vient des États-Unis, peut-être qu'il y a une revendication liée au fait de aux moyens et à la date à laquelle ils touchent l'argent suite à leur travail sur la production, Julien.
Alors oui, il y a plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle le cachet. Donc que ce soit pour un acteur ou un scénariste, on te dit tu vas tourner tel film, tu vas être rémunéré tant. Pour les grands acteurs, ça peut être plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc ça, c'est la rémunération fixe, on va dire, pour un salarié lambda. Et après, on va avoir du coup un pourcentage. Un pourcentage soit sur les recettes en salle, ce qui arrive assez souvent pour les acteurs, mais aussi pour les scénaristes. Et après, encore un autre pourcentage, ça va être sur les rediffusions. Rediffusions à la télé ou autre. Et ça, c'est vraiment des revenus résiduels. Et c'est des choses qui peuvent revenir du coup sur le long terme. Il y a des acteurs qui peuvent toucher, ou même des scénaristes qui peuvent toucher des droits de rediffusion sur des séries qu'ils ont écrites, qui sont sorties il y a plusieurs dizaines d'années. Donc ça, c'est sur les canaux qui sont traditionnels, salle, télévision. Et du coup, à aujourd'hui, notamment suite au Covid, où cette pratique aux États-Unis a été un petit peu généralisée, c'est sorti hybride. Les sorties on met un film en salle, et deux, trois semaines après, selon son résultat au box-office, on va le retrouver en sortie simultanée sur une plateforme. Et là, à aujourd'hui, c'est un petit peu l'inconnu, ou en tout cas, on n'a pas complètement la vision là-dessus, de comment les acteurs, les scénaristes, tous ces travailleurs sur les industries sont rémunérés sur cette sortie-là. On peut penser, un peu le patient zéro, c'était Black Widow, où Scarlett Johansson est en effet monté au credo. Moi, je peux penser à The Fabelmans, qui, trois semaines après sa sortie, s'est vu bazarder aussi sur HBO Max.
Dune.
Oui.
Et oui, exactement. Mais quasiment à peu près, aux États-Unis, c'est un peu devenu la norme. On voit là, par exemple, aussi le crash monumental du dernier voyage du Déméter. Et du coup, la Warner a dit, hop, on va mettre ça sur la plateforme, on va essayer de sauver un petit peu les meubles. Mais du coup, comment ces acteurs derrière sont rémunérés sur cette sortie sur la plateforme, on n'en sait pas grand chose, mais ce qui est sûr, c'est que du coup, à aujourd'hui, ils se plaignent énormément de cette absence ou de ce manque de justice sur ce canal-là précisément. Parce que bah, on en parle très très bien sur Netflix, sur HBO Max, sur Amazon, que sais-je, une série va avoir une diffusion quasiment continue, discontinue, et des périodes de succès. On peut le voir très rapidement, des séries qui d'un coup reviennent dans les tendances de diffusion, et bien ça, on le sait pertinemment, les acteurs, les scénaristes touchent un pourcentage qui est très très faible, et là, j'écoutais le témoignage d'un scénariste qui disait, par exemple, je signe pour Netflix, pour Amazon, que sais-je, je vais avoir un pourcentage de rémunération, je vais toucher 80% du barème de contractuel, en royalties, sur les trois premières saisons. Si elle a du succès, et sur la saison 4, 5, 6, je vais passer à 100%. Mais qu'est-ce qui se passe contractuellement? Eh ben, certains studios vont faire les trois premières saisons, et ne vont pas continuer le contrat, mais vont simplement le renouveler. Et partir du principe que du coup, bah, en fait, non, c'est pas la saison 4, 5, 6, c'est la saison 1, 2, 3. Mais tu as déjà écrit pour trois saisons précédentes. Pour rester à un niveau de rémunération, du coup, qui est plus avantageux pour le studio, car ça coûte moins cher, mais pour le scénariste ou pour l'acteur, bah, il se fait avoir. Parce que, bah, il reste à un niveau de rémunération qui est excessivement bas. Et ça, c'est le cachet. On parle pas des droits de rediffusion, qui eux restent excessivement faibles, et des droits d'exploitation à l'étranger, parce qu'il y a des contenus qui seront exclusifs pour tel catalogue sur tel pays. Mais il y a certains catalogues qui vont se dire, ah bah attends, on va l'ouvrir à l'étranger. Par contre, la rémunération d'un scénariste ou d'un acteur, on prenait par exemple le scénariste de The Bear, la série culinaire sur Disney+, oui. qui fait un très très joli score et aussi sur
excellente
la plateforme.
Excellente série,
au passage, tout à fait. Eh bien, le scénariste disait, j'écris pour une série à succès, je suis payé une misère et je suis obligé d'avoir un second taf parce que là, aujourd'hui, le revenu que j'ai sur cette série à succès ne me permet même pas de vivre correctement. Donc, c'est un véritable sujet à aujourd'hui, outre le cachet pour les scénaristes qui reste faible, et d'autant plus que, bah, les scénaristes sont rémunérés au nombre d'épisodes, soit au nombre, à la durée, au produit du film, ou pour les séries, au nombre d'épisodes. Et étant donné que, à aujourd'hui, surtout sur les plateformes, plus que sur la télévision, où on reste sur des saisons qui vont avoir une bonne dizaine, voire vingtaine d'épisodes, pour les saisons plus digitales, on oscille sur une dizaine d'épisodes maximum, voire même moins. On voit de plus en plus de séries qui vont avoir 6, 8, 9 épisodes. Et bien évidemment, le cachet, donc c'est-à-dire déjà le montant qu'on va recevoir en rétribution de son travail, est moindre. Et derrière, on a encore ce revenu résiduel qui est, et ça, il faut bien le rappeler pour ceux qui nous écoutent, c'est surtout le revenu résiduel, donc ce qu'un scénariste, un acteur va toucher un petit peu en fil rouge, de manière un petit peu continue, qui dégage et qui représente à aujourd'hui la majeure partie de la rémunération de cette tranche, en fait, de cette catégorie du milieu. La lutte à aujourd'hui, le combat qui est mené, c'est pas pour défendre les intérêts des gros cadors de l'industrie, c'est vraiment pour aller rémunérer le cœur battant de l'industrie du cinéma et de la série, qui sont ces acteurs un petit peu moins connus, les scénaristes qui ont toujours, de tout temps été un petit peu la face submergée de l'iceberg. C'est vraiment ces personnes-là qu'on vient défendre à aujourd'hui et qui ont besoin de ce revenu résiduel, bah, pour pouvoir, là, on ne parle même pas de pouvoir se payer une villa à Beverly Hills, hein, simplement avoir un niveau de revenu décent pour leur permettre de toucher, en effet, la sécurité sociale, hein. Aujourd'hui, Auscult le disait très bien, c'est 86% des personnes qui sont représentées par la SAG-AFTRA touchent moins de $26,000 à l'année, donc ce qui est vraiment le revenu minimum. On n'est pas complètement au niveau du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté aux États-Unis est un peu compliqué à prendre. C'est une moyenne par rapport aux États et par rapport à ta tranche de foyer. Par contre, c'est bien en dessous du niveau moyen de rémunération qui est aux alentours de $50,000 pour un Américain. Donc on est vraiment sur un taux de niveau de précarité qui est alarmant et qui revient très très souvent pour les scénaristes et qui là devient aussi alarmant pour les acteurs.
Tout à fait, c'est alarmant, et la question qu'on se pose aujourd'hui, parce que si on essaie d'avancer un peu dans le temps et de se projeter, parce que je pense que l'objectif aussi c'est de se dire ce qui se passe actuellement va avoir un impact dans quelques mois, voire peut-être quelques années, que sais-je, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire, vers où va-t-on ? Comment les studios vont essayer de repenser la manière de vulgairement faire un film ? Mais on ne fait pas un film, mais voilà, il faut être le plus vulgaire possible finalement. Faut-il repenser l'évolution des professions, leur place aussi, leur fonction dans l'univers cinématographique ? Est-ce qu'on assistera à une espèce de bataille médiatique entre les deux pôles ? Ou est-ce qu'on a des solutions qui ne sont peut-être pas des bonnes solutions, comme on le disait tout à l'heure avec l'IA, mais aussi une solution qui existe depuis X années, qui est être réal et scénariste en même temps ? Est-ce que c'est pas finalement la bonne solution pour éviter des arrêts définitifs fermes de certaines productions ? Concrètement, quel impact ça va avoir dans l'univers ou l'industrie, cinématographique, Love My Ciné ? Comment on peut repenser ça aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer dans les quelques mois ?
Tout simplement, avant de commencer à vraiment parler de cet impact et autres, j'aimerais dire quatre nouvelles aux gens qui nous écoutent. House of Dragon saison 2 est toujours en cours de tournage, vu que c'est en Angleterre, on se rassure. Netflix a prévu pour cette année 40 films français, dont 37 avec Alban Le Noir. Et aussi, il y a la Squid Game, Future Peluche et le Talk Show qui va sortir, bien sûr, en 37 saisons. Sinon, et grosse pensée à Bad Girl, le film qu'on aurait préféré voir plutôt que The Flash.
On embrasse The Flash quand même, hein.
On l'embrasse pas. Du coup, pour parler de cet impact, oui, c'est sûr que, franchement, cette grève, elle arrive à un point nommé qui va être de se dire comment on dit, faire un cinéma. Ce que les studios ne savent pas, c'est que eux, ils ne font pas les films, hein, ils les produisent. Ce serait bien de remettre les termes pour eux, parce qu'ils pensent qu'ils sont les créateurs de films, mais finalement, c'est,
ouais.
Ils sont que dans la production, parce que eux, ils ont juste les billets, ils ont pas l'imagination. Mais je suis dans pour moi, cet impact, il est important. La grève, elle est importante à l'heure actuelle. C'est de porter un vrai message. C'est de porter un vrai message pour que le grand public, soit enfin au courant, que non, ce n'est pas Disney, qui crée, un film. C'est des scénaristes, des réalisateurs, des acteurs. Non, ce n'est pas Warner qui va produire la dernière grande série à la mode ou qui a créé Harry Potter. Non, c'est Columbus qui a fait le premier film, qui a réalisé avec de grands acteurs qui sont derrière. Il faut vraiment comprendre que pour moi, actuellement, cette grève, ça va être le point nommé de savoir si notre passion, le 7e art, va bouger ou non. C'est pour savoir si l'intelligence artificielle va prendre le pas ou non, parce que si on écoute les studios, l'intelligence artificielle est le nouveau caprice des dieux. Si on écoute les scénaristes, c'est un diable, finalement. Et en fait, faut comprendre que les grands patrons de studios, ils savent pas écrire de films. Et pourtant, ils ont la rémunération qui vont avec. Il faudrait, en fait, apporter cet aspect-là. Et j'ai vu des chiffres qui sont pour moi, je pense, bons. Que si actuellement Disney ou Warner appliquaient, les demandes faites par la saga Astra, par exemple, on serait sur 0,018% de l'entreprise qui serait payée en plus. 0,018%. C'est même pas 1%. C'est 0,018%. C'est un chiffre minime. C'est microscopique. C'est une folie. C'est pas des demandes un consumer. C'est comment on dit ? C'est pas des énormes demandes. On demande pas à que les scénaristes soient millionnaires dès demain, hein, bien sûr. Ça vraiment, ça serait pas possible. On demande pas que tous les acteurs de série B commencent à toucher 40 000 $ l'épisode. Mais on demande à ce que finalement ces droits d'auteur soient appliqués. Ces droits d'auteur qui sont comme pour la télé, ça devrait être la même chose pour Netflix. Après, peut-être pas le même décompte, parce que à la télé, c'est une heure fixe, un programme qui passe une fois. Netflix, c'est peut-être Breaking Bad, 500 000 personnes qui le regardent en une journée, 500 000 personnes. Après, Netflix va pas payer tous les jours pour Breaking Bad, mais c'est peut-être se payer un horaire, un tarif qui permette de faire que les scénaristes soient mieux payés, soient pris en considération, parce qu'actuellement, on voit que c'est une partie de la population dont les studios s'en foutent. J'ai vu un chiffre alarmant, c'est Warner qui disait je préfère perdre qui ont préféré perdre 500 millions de dollars plutôt que d'accéder aux demandes faites par les scénaristes. Ah oui, c'est vrai que perdre tous les bénéfices que tu as fait avec Barbie, c'est sûr que c'est intelligent, mais Non, en vrai, c'est si moi j'aime bien faire des blagues parce que ça me permet de dédramatiser la chose. C'est vraiment un sujet sérieux. Faut que les gens qui nous écoutent sachent que finalement, c'est vraiment peut-être une des pires choses qui peut arriver à notre passion, parce que le cinéma, c'est certainement l'art le plus humain possible. Ça regroupe tous les types d'art. Il peut y avoir de la peinture, de la littérature et autres dans le cinéma. Cependant, c'est celui qui regroupe le tout avec une image. Et je vous assure que dans une image de n'importe quel film, il y aura bien plus d'idées que sur une fiche Excel ou sur une chiffre d'impôt.
C'est vrai quand même qu'il faut il faut bien rappeler que le cinéma, qui est quand même un des derniers arts, peut-être pas le dernier, mais un des derniers, hein, à la suite de la musique, le théâtre, la danse, etc., la sculpture.
C'est notre septième art.
C'est le septième, et c'est pas pour rien que c'est le septième. C'est-à-dire que effectivement, on n'a pas, c'est pas le premier, parce que il découle dans cet art-là, on en voit beaucoup. Tu en as cité quelques-uns. Il y en a un que tu n'as pas dit, mais je sais que tu y pensais. C'était la musique, les musiques, des compositions de musique de films, etc., qui se rejoignent, qui permettent aussi de orner, d'alimenter une image.
Je sais pas s'ils sont rentrés en grève justement. C'est pour ça que j'ai pas voulu les mettre. Je sais pas s'ils sont rentrés en grève les compositeurs de musique.
Alors, je ne crois pas non plus, Julien, je pense pas, mais Julien, tu n'as pas vu ?
Non, normalement, enfin, aujourd'hui, les compositeurs de musique sont pas du tout en grève. Enfin, en tout cas, de ce que je sais.
Ouais. Par contre, je tiens à faire un gros big up aux doubleurs d'animation qui sont souvent des acteurs, du coup, qui eux sont indirectement ou directement en grève sans les personnes. Et qui du coup touche mon domaine de spécialité, qui est l'animation.
Tout à fait.
Et franchement, c'est aussi un impact aussi, parce que il n'y a pas que les acteurs de série B. C'est pas parce qu'on voit un humain, c'est pas parce qu'on le voit pas à l'écran que derrière il n'y a pas de film. Et surtout dans le domaine de l'animation, il y a énormément de doubleurs qui sont en grève du coup pour soutenir les acteurs. Et malgré que l'animation soit quand même un des domaines où actuellement le cinéma se porte le mieux, surtout en termes de qualité. Surtout en termes d'idées, on a rarement eu un cinéma d'animation aussi fantastique et incroyable, et merci à toutes les personnes qui travaillent autour, et parce que moi c'est ce qui me touche le plus. C'est quand même un domaine très dur, et aussi je crois que du coup dans les effets spéciaux, il y a aussi les gens qui ont fait les films d'animation, donc les animateurs et autres, qui sont aussi en grève, et du coup eux c'est encore pire que les scénaristes. Je pense pas qu'on aura le temps d'en parler, mais c'est un sujet très important.
Oui, bah de toute façon, quel que soit le sujet, là on parle quand même d'un contexte de crise et des revendications sur une profession qui est manifestement compliquée déjà à aborder, à connaître réellement, mais aussi à reconnaître dans l'industrie cinématographique, donc c'est sûr qu'il n'y en a pas, il n'y a pas que ça. Alors justement, Ausculte, la vraie question c'est, on va éviter, on essaie, les studios essaient, mais bon c'est compliqué, d'arrêter définitivement, ou en tout cas temporairement, les productions. Comment on fait ? Comment ça se passe ? Comment les studios réagissent face à ça ? Et comment on peut éviter de se retrouver en 2024 avec rien au cinéma, quoi ? Parce que c'est un peu ça le problème. C'est qu'on va arriver à un moment donné où la grève, elle est justifiée, elle est justifiable, elle s'entend parfaitement. En plus, pour nous, cinéphiles, voilà, et peut-être que Love My Cinema avait raison, est-ce que c'est pas mieux qu'elle se fasse là maintenant et qu'on pose les bases et qu'on repense, quitte à repenser l'industrie, plutôt qu'elle se fasse trop tardivement et que finalement, elle n'ait aucun impact. Mais actuellement, si on a une grève, ça veut dire qu'on a des productions qui s'arrêtent. On parlait de Dune 2 qui est reportée. Comment ça va se passer les mois à venir ou l'année 2024, parce que la vraie question c'est, est-ce qu'on va avoir des choses à regarder, quoi ? Enfin, je dramatise, mais c'est un peu ça. Comment on va gérer ça, Ausculte ?
Alors, il va y avoir évidemment des choses qu'on pourra regarder. Alors, la solution la plus simple pour qu'il y ait des films qui sortent, ce serait que les studios acceptent les demandes. Il n'y a pas plus simple comme solution. Hein.
Oui.
Après, effectivement, il y a beaucoup de reports qui sont en cours. Alors, des films qui sont déjà terminés comme Dune, c'est parce que les acteurs ne peuvent pas promouvoir, donc c'est quelque chose d'un peu différent. Mais il y a surtout beaucoup de tournages qui sont arrêtés. Quasiment toutes les productions Disney sont arrêtées. Enfin, même à la télévision, toutes les séries sont arrêtées. À part celles, comme l'a dit Love My Cinema, celles qui se tournent sous un en Angleterre, avec notamment House of the Dragon. Comment on va faire ? Bah déjà, il va y avoir des reports. On a le début avec Dune. Il n'est pas impossible que d'autres gros films soit reporté, que ce soit même sur Netflix d'ailleurs, parce que Netflix, même si c'est des sorties qui ne sont pas au cinéma, ont besoin de faire de la promotion pour certains gros films. Je pense par exemple à leur plus gros projet qui sort en fin d'année, Rebel Moon de Zack Snyder. Peut-être qu'ils auront besoin de faire une promotion avec des acteurs pour promouvoir un nouvel univers, donc peut-être que ça sera reporté. Là, j'ai pas trop de réponses à donner là-dessus. J'aimerais quand même rappeler que aussi la grève, c'est un combat, c'est très important de dire que c'est des acteurs et des scénaristes qui ne sont pas du tout payés pendant ces longues semaines et qui commencent à être de longs mois. Il y a beaucoup de scénaristes et d'acteurs qui ne pourront sans doute pas reprendre leur métier, qui vont devoir changer parce qu'ils ne peuvent pas survivre. On voit beaucoup d'artistes très solidaires, notamment les plus grandes stars, qui donnent beaucoup d'argent, de dons, pour soutenir ces syndicats, parce que les acteurs et les scénaristes tout ne sont fait. Pas du tout payés pendant ce moment, et on va arriver avec un milieu qui va plus du tout devenir attractif, et potentiellement des professionnels qui ne pourront plus exercer leur métier. Même si la grève, elle touche ces syndicats-là, on voit que le Hollywood, en ce moment, est dans un étau très étroit. La production se concentre en masse, et on a beaucoup de très très gros films qui sortent en même temps. Beaucoup d'artistes, notamment les effets spéciaux, ne peuvent plus suivre, et s'ils ne sont pas en grève, c'est parce qu'ils n'ont tout simplement pas de syndicat, sinon il y a fort à parier qu'ils seraient en grève aussi. On voit notamment que des employés des VFX chez Marvel vont voter pour avoir un syndicat. Si c'est le cas, ils vont rentrer très probablement en grève tout de suite. La grève va continuer pendant un long moment. Il n'y a pas beaucoup de solutions proposées par les gros studios pour le moment. C'est dommage parce que tout le monde perd dans cette histoire, que ce soit les acteurs, les scénaristes, les artistes qui ne sont pas payés, qui travaillent dans des conditions quasi infernales en ce moment. C'est perdant pour le spectateur qui ne pourra pas avoir leur film préféré à la fin de l'année, qui vont aussi voir certains projets qu'ils attendaient être réalisés dans des conditions assez particulières. C'est quand même compliqué de stopper un tournage et de le reprendre des mois après sous des bonnes conditions. On l'a bien vu, pour ceux qui ont plus de 20-30 ans, qui se souviennent peut-être d'une grève fin 2000, début 2010, qui avait touché beaucoup de séries télé, notamment la série Lost, qui a vu certaines saisons être vraiment raccourcies et la qualité pas toujours optimale, pareil pour la série Prison Break, ça avait touché des films aussi. Donc c'est pas impossible que certains films qui sortent 2024 ou 2025, je sais pas encore, soient... un peu sacrifié en termes de qualité parce qu'ils auront été faits à la va-vite ou stoppés pendant de longs mois. Donc je sais pas trop comment les studios vont gérer tout ça. Je pense que c'est surtout ils vont essayer de sortir les films au compte-gouttes. En 2023, entre mai et juillet, il y avait quasiment un voire deux très gros blockbusters qui sortaient chaque semaine. On va pas retrouver ce rythme-là en 2024 et c'est peut-être pas plus mal finalement.
Ouais, tout à fait. Love My Ciné, tu voulais rajouter quelque chose?
En fait, je voulais du coup parler des syndicats des effets spéciaux qu'Ausculte en parlait. Il en a parlé. Donc je me retrouve sans dire quelque chose, même s'il en a très très bien parlé. J'aimerais ajouter un truc. J'aurais aussi ajouté qu'il y a aussi des studios qui vont se servir de cette grève pour faire oublier des films ou juste pour les annuler. Je pense à Blade Marvel qui date de novembre 2021, qui n'a jamais commencé son tournage. Et je pense que honnêtement,
avec Mahershala Ali, c'est ça?
Et si sans trop, il y a plus beaucoup de doutes, je pense qu'ils vont utiliser la grève en disant oh c'est dommage, on va pas pouvoir faire le film, alors qu'il y avait un script qui avait commencé à être écrit et tout, donc théoriquement des gens qui seront pas payés. Je pense que aussi il y a des grosses productions qui vont être annulées. Cependant, en 2024, il faudra quand même penser à arrêter de regarder au niveau des États-Unis. Ça va être une année de transition pour le monde du cinéma, et je pense que ça va être important de voir, par exemple, des films asiatiques, des films européens, bien sûr, et des films de tout autre continent que américains. Certes que pour le grand public, ça va faire du mal, mais au moins, pour nous, les cinéphiles, ça nous permet d'avoir des studios qui vont essayer de mettre en avant des films indépendants, de genre, et peut-être de voir ce que c'est de la qualité en faisant confiance à des gens qui ne sont pas forcément les plus connus, mais qui ont certes une plus grande passion.
Alors ça, c'est vrai ce que tu dis, dans le sens où il y a des boîtes de production ou même des films totalement indépendants qu'on ne connaît pas forcément en Europe, en France par exemple. On n'est pas très très consommateur du cinéma latino-américain par exemple, alors qu'il est très très bon. Moi-même, j'en suis un spécialiste. Le cinéma asiatique, qui on en connaît, hein, c'est vrai, c'est pas difficile après d'aller acheter un petit DVD pour voir un petit peu ce que ça peut donner, aussi bien sur des grosses boîtes de prod que sur du film indépendant. Mais peut-être que de toute façon, on sait qu'en Europe, on est très, très, très consommateur de ce cinéma-là. Et c'est ce cinéma-là qui, à l'instant présent, est un peu à l'arrêt et qui va. On sait très bien que ça aura un impact sur notre consommation cinématographique dans les quelques mois. Ça, on le sait. Donc, on sait très bien que l'être humain, quand il n'a pas ce qu'il faut pour se nourrir, il va aller chercher la nourriture autre part. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que la question, c'est est-ce qu'on ne va pas. À ce moment-là, dans ces quelques mois où on n'aura pas assez pour se nourrir du cinéma américain, est-ce qu'on va pas, c'est pas l'occasion d'aller effectivement chercher autre part. Maintenant, il y a quand même une vraie question, c'est que on parlait tout à l'heure, Julien le disait très bien avec les différents festivals, parce qu'il est spécialiste du cinéma de festival. On sait que on a des films qui sortent, hein, qui sont, il y a des prix, les festivals de Deauville, festival de Cannes, enfin voilà. Le gros problème, c'est que si la grève se poursuit avec notamment des acteurs qui ne se pointent pas, est-ce qu'on peut affirmer, Julien, qu'une promo d'un blockbuster sans les acteurs, ça dirige le dit film vers un échec total ? Comment on va essayer de faire pour éviter un échec d'un film qui n'aura pas forcément de communication ? Après, parce que les studios ne placent pas l'argent dans cette communication-là, comment ça va se passer pour ces films qui auraient dû être présentés et promotionnés ? Mais qui ne le sont pas finalement avec des acteurs qui ne se pointent pas dans les festivals.
Oui, alors du coup il y a plein de choses intéressantes là qui ont été soulevées. Déjà ce qu'il faut dire c'est qu'aujourd'hui d'un point de vue mentalité, là on l'a vu dans les derniers jours, les studios estiment à peu près que la fin du conflit devrait se poursuivre jusqu'à fin 2023. On devrait revenir à trouver une issue à peu près début d'année 2024. Donc là, c'est-à-dire que les studios de production sont déjà rentrés sur un conflit à long terme. La SAG-AFTRA et la Writers Guild of America également. Il y a des aides hein, qui sont données, notamment pour la SAG-AFTRA, qui s'était préparée financièrement pour pouvoir aussi aider à subvenir financièrement à ces différents syndiqués, on l'a dit, des gros acteurs qui font aussi des donations, j'ai entendu The Rock, Tom Hanks, Meryl Streep aussi, ouais. Pour justement aider à la lutte, et du coup, pour les studios, alors il y a des studios où là on l'entendait, qui mettaient à l'arrêt certaines productions, qui vont, je pense aussi, et ça c'est sûr et certain, repenser peut-être leur calendrier de sortie, leur calendrier de production, à se dire, écoute, ce projet qui ne serait peut-être pas bankable, on va le bazarder. J'entendais le réalisateur, il y a maintenant un mois de ça, le réalisateur du projet Tron 2, Tron Ares, qui justement taclait la SAG-AFTRA et Fran Drescher en particulier sur la lenteur des négociations, en disant que, ah, attention, moi, mon film Disney pourrait me le sucrer. Donc, il va y avoir certainement des pots cassés. On va avoir un peu comme à la sortie du Covid, où on a eu des plans de production, de post-production qui ont été un petit peu bousculés, et on a eu des sorties de films pas finis. On peut se rappeler de l'exécrable Mort sur le Nil, où on voit littéralement que quand un film en fait n'est pas fini, ça se voit à l'écran.
Ouais, le studio abandonné. Coup,
les décors en carton-pâte. Oui, complètement, mais je pense que Kenneth Branagh avait abandonné, et du coup le spectateur aussi a abandonné.
Et pourtant il a fait un beau score en France, je crois qu'il a tapé le million d'entrées.
Oui, après, il a eu aux États-Unis, il a eu des critiques dithyrambiques. Après, les États-Unis sont toujours assez chouchous sur leur production.
Le meilleur film de super-héros, The Flash. Fin de la blague.
Mais je pense que moi, pour des gens aveugles, The Flash est un excellent film.
Moi, je pense que Tom Cruise, il a fait une sieste, il s'est réveillé, il a pas assumé, il a envoyé un petit mail à Warner. Incroyable votre film. Je pense que tu lui poses une question sur l'histoire du film à l'heure actuelle. Je pense que The Flash, il pense que c'est le méchant. Mais ça c'est non mais donc moi je suis d'accord avec Amour de Ciné, du coup je reprends sur ce que tu dis. Honnêtement, on a en fait si on nous sort de cette grève, je pense qu'actuellement on est dans un monde où le cinéma va changer. Le cinéma va avoir un autre aspect. On sent que les super-héros c'est plus le délire du public. Maintenant, ils veulent de vraies productions faites par de vrais réalisateurs. On pourra parler, par exemple, moi, je pense que je vais parler au nom de la population française. Par exemple, le succès de Babylone, 1,5 million d'entrées. ce film qui est incroyable, malgré qu'il s'est fait détruire aux États-Unis, on aurait préféré que c'était The Flash à sa place. Non, honnêtement, je pense que ça va avoir un vrai impact, le fait qu'il n'y ait pas de, de casting au niveau de la promotion. Finalement, ça pourrait être bien que ça soit fait en France, marre de voir Depardieu dans mon cinoche. Faudrait vraiment que ça devienne un vrai conflit international. Par contre, ce qui me terrifie, et ça, je pense que ça va tous nous terrifier, c'est potentiellement le flop d'Aquaman 2, qui sort en décembre 2023. C'est vraiment ma grande attente de savoir que Amber Heard va faire un tapis rouge. Et...
Non.
Non, c'est vraiment quelque chose qui m'affecte au plus grand point de savoir que Jason Momoa, après son Fast and Furious 10, va incarner encore son homme poisson célèbre. Mais pour redevenir un peu plus sérieux, faut vraiment que cet aspect promotionnel avec le casting et tout, on sait que c'est une partie de plaisir pour le casting de le faire, souvent d'être sur le tapis, de prendre des photos, de montrer leur travail. On sait que quand le film a été fait par la passion, on voit que c'est quelque chose de fou. On peut par exemple comparer avec Oppenheimer, juste avant la grève, où on voyait chaque acteur, chaque actrice être très heureux d'être présent, d'avoir travaillé avec Nolan, d'avoir fait ce grand film. On peut comparer aussi avec Barbie, où on voyait Ryan Gosling et Margot Robbie raconter plein d'anecdotes que le fait qu'ils avaient travaillé, ils avaient eu de la vraie passion. Et pourtant, ce sont deux blockbusters qui ont énormément rapporté. Mais on voit que ce sont deux films aussi qui ont été faits avec passion, avec envie, et que ça a pas été un énième opus ou autre. Et j'aimerais terminer juste par le fait que ce qui me fait vraiment peur, et là c'est pas une blague, c'est que par exemple le film Sonic 3 est en plein tournage, mais sans aucun acteur. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tourner toutes les scènes où il y a Sonic en animation, et qu'après, dès que la grève est finie, ils vont inviter les acteurs, pendant un mois ils vont tourner, VFX seront déjà faits, sortiront le film en 2024. Et après, aussi une autre chose, c'est que Venom 3 sort en 2024, et ce que je suis sûr, c'est qu'il n'y aura aucun retard, vu qu'il n'y a pas de scénario, et ça me fait plaisir. Voilà, donc je tenais à finir sur ça, sur cette petite touche d'humour, finalement, pour un film qui va faire 500 millions d'entrées, 500 millions de box-office. Et ça me fait peur.
Ah, c'est beau.
On verra au niveau du budget, mais ce qui était très intéressant, tu parlais de la promo d'Oppenheimer, c'est que du coup, en pleine tournée promotionnelle...
Ils se sont arrêtés.
Oui, c'était à l'avant-première de Londres, justement, où du coup la SAG-AFTRA a annoncé la grève, et du coup, bah, Nolan s'est retrouvé absolument tout seul sur le tapis rouge. Le cast s'est dit, bah non, du coup, on arrête la promo. Allez, vas-y, Christopher. Donc c'est là où il faut bien le rappeler, je trouve que c'était une très très bonne démonstration du pouvoir qu'a le syndicat sur les acteurs, et surtout sur la survie, la vie d'un film, du coup, sur son box-office. On le sait pertinemment, un gros blockbuster, et surtout avec des frais marketing qui sont du coup énormissime, parce qu'en fait, quand on parle de budget des films, là, on entend, par exemple, quand on dit qu'un Marvel coûte 250 millions, le dernier Indiana Jones a un peu plus de 300 millions, ça, c'est les coûts hors frais marketing, des choses qu'il faut encore rajouter. Donc, évidemment que la promo joue un facteur important dans le succès du 10 films en salle. Après, en termes de pertes, là, tu parlais de Warner, qui en effet estime ses pertes, parce que là ils ont du coup publié, comme à peu près tous les studios ont publié leurs chiffres leurs chiffres du coup des rentrées au box office de toute leur production et leur estimation pour la fin de l'année. Donc là le constat c'est que bon, il y a eu le flop Flash, il y a eu la petite déception du nanar de requin en eau très trouble qui a fait moins d'entrées que le premier, et malgré
il a fait un énorme carton
du succès. Oui, mais alors malgré tout, on est à 398 millions au box-office mondial, alors que le premier avait fait plus de 500 millions. Donc on est quand même sur un opus qui a rapporté un peu moins. Mais
il est rentable, il est rentable.
Oui, mais il fait moins. Ouais. C'est ce que souligne le studio et qui dit que, alors oui, en effet, le chiffre 300 à 500 millions de pertes sur à peu près une rentrée d'un box-office global sur l'année qui est estimé à 10, voire 11 milliards de dollars.
C'est pas mal.
On n'a pas pleuré Warner du coup sur cette perte là, mais en effet ils impactent cette perte prévisionnelle notamment et énormément sur la grève et du coup le décalage entre autres de Dune 2 qui serait le premier d'une potentielle longue liste, même si le film est fini, donc normalement on ne devrait pas avoir de problème sur la finition du film. Par contre, ça impose à tous les studios de revoir leur planning sur leurs grosses sorties, où évidemment, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des gros blockbusters comme Dune qui coûtent cher, à l'instar d'un Barbie ou d'un Oppenheimer qui sont, à aujourd'hui quand même, en termes de budget, un petit peu l'ovni de la manne financière qu'on a aujourd'hui de tous les studios d'aller faire des budgets toujours plus chers. Pour rappel quand même, Fast and Furious 10, c'est plus de 340 millions de dollars
c'est
en budget
honte.
De production.
C'est une honte.
Ça n'a aucun sens. Là, pour Barbie, on est aux alentours de 175-180 millions de dollars pour, en effet, un score au box-office qui est absolument...
On précise pas sans le marketing, bien évidemment, comme tu l'as dit.
Oui. Exactement, toujours sans le marketing. Et je pense que c'est aussi un excellent exemple pour les studios de se dire arrêtons de toujours aller faire de la surenchère dans nos budgets de films. Repensons en fait notre système de dépenses, alors que pourtant Barbie a quand même Margot Robbie et Ryan Gosling, donc déjà en termes de cachet d'acteurs, on n'est pas sur les plus abordables du marché. Oppenheimer est pareil, on a quand même Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, et qui restent quand même dans des budgets qui sont certes toujours tapés sur la catégorie blockbuster, mais à aujourd'hui qui restent dans des budgets plus raisonnables. Et qui donc du coup aussi en termes de box office ont des objectifs de rentabilité qui sont plus réalistes.
C'est particulier, hein. C'est pas
que d'autres.
Ces deux films-là, c'est très particulier parce que dans le cas d'Oppenheimer, ils ont tous accepté un cachet très très faible parce qu'ils voulaient tourner avec Nolan. Ils ont tous dit, je crois, que c'est 4 millions le maximum de cachet qu'ils ont fait par acteur. 4 millions pour Robert Downey Jr., c'est minime. Ils avaient justement accepté là. Dans le cas d'Oppenheimer, c'est très particulier parce que c'est tourné avec Nolan. Et dans le cas de Barbie, Margot Robbie n'a pas touché de cachet, mais elle est devenue productrice du film qui est largement plus rentable pour elle.
Elle a été productrice depuis le départ depuis le début du projet.
Je veux Greta Gerwig, je veux faire un film qui va marquer.
Ouais.
Et je veux être Barbie. Et je veux pas être la vieille Barbie qui dit stéréotype de tous les sens. Je veux être une Barbie qui permette à chaque petite fille de savoir qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut tant que c'est avec la passion et l'envie de le faire. Et du coup, en vrai, je crois que dans ces deux projets-là, c'est particulier. C'est pas vraiment dans les cachets type que prennent des acteurs de ce calibre pour des blockbusters. Donc, par contre, en autre et trouble, Jason Statham s'est mis très bien.
Oui, oui. Non, mais c'est quand même de dire que ça impose quand même aussi au studio de se dire qu'on n'est pas obligé de toujours aller taper les 300, 340, 250 millions de dollars pour faire déjà un film de qualité.
The
Flash, c'est 220 ou 250 millions, hein, si je me souviens bien. Et je ne sais pas où. Et donc c'est intéressant. Et on parlait aussi du coup de tout ce qui est le secteur des VFX et de l'animation. Secteur a aujourd'hui en effet, comme le disait Osculte très bien, 100 syndicats qui ont émis leur volonté de se syndiquer parce que depuis quelques années sont assez mis à mal. L'un des studios qui les exploite le plus avec leur cadence toujours plus folle, même si apparemment maintenant ça va se calmer, c'est Marvel. Quasiment tous les studios disaient que c'était l'un des pires clients avec qui bosser, parce que Marvel, Kevin Feige et Disney ont comme stratégie déjà d'aller toujours taper plus bas en termes de factures sur leur cabine, sur les studios de VFX, en disant on va toujours plus vite, je te paye toujours moins, on augmente la cadence, ce qui fait que on tombe sur des plans aussi bien finis que Thor 4.
Critique pas Thor 4, j'aime ce film de tout mon cœur.
Je ne critique pas, je pose un constat, j'ai une facture de la réforme qui va très bien. Et donc du coup, toute cette logique-là de Marvel qui a une cadence très élevée depuis quelques années a eu un impact en fait sur l'industrie en globalité, où d'autres studios ont un petit peu vu ce qui se faisait en disant « Attends, mais ça a l'air de fonctionner, on va le faire également ». Et tout en fait, il y a vraiment une vraie tendance à aujourd'hui sur l'industrie du cinéma, à se dire on presse toujours plus les délais et en plus on va toujours te facturer encore moins, c'est-à-dire que on demande au studio de VFX d'aller très vite et de dépenser le moins possible, et en effet on s'étonne après d'avoir des rendus discutables. On se souvient tous de l'interview du réalisateur de Flash qui dit que c'est voulu d'avoir des effets spéciaux moches dans son film. Mais bien sûr, on te croit à 200%.
C'est le réalisateur du futur Batman. Alors sachez que si Bruce Wayne a la moitié d'un costume, c'est en effet voulu. Il n'aura pas de casque ni de jambière, bien évidemment, et ça sera pas une bat voiture, mais un bat vélo. Voilà.
Mais c'est vrai que dans tout ça, c'est vrai quand même que dans le contexte de la grève, je pense que il y a autre chose qui commence à émerger. C'est au-delà des scénaristes, au-delà des acteurs, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser la manière de vulgairement faire un film et la manière de gérer les finances derrière, de gérer le budget, de gérer tout ça. Auscult, c'est justement une question qui reste quand même en suspens. On n'a pas tous les éléments de réponse, mais comment on va réussir à repenser l'évolution des métiers dans le cinéma et à repenser l'industrie cinématographique. En gros, qu'est-ce qui va pouvoir changer ou qu'est-ce qui devrait, à l'inverse, ça serait quand même bien, cette grève, elle a un gros impact, qu'est-ce qui devrait changer les cachets, la rémunération, le budget du film, la gestion donc des finances, ou même la profession, le rôle, la fonction de certaines professions telles que le scénariste ou producteur ou acteur, qu'est-ce qui devrait changer dans l'industrie cinématographique?
Bah, s'il y a bien quelque chose que nous a appris cette année, c'est que les marques ne sont plus toutes puissantes. Il y a beaucoup de films de grosses suites ou de franchises qui se plantent de plus en plus. On a Ant-Man chez Marvel, chez Disney, Indiana Jones, Mission Impossible même qui s'est quand même un peu planté, Transformers, beaucoup de ces films-là. C'est notamment Christopher McQuarrie qui en a parlé, le réalisateur de Mission Impossible, qui a été très fair-play en signalant le succès colossal de Barbie et d'Oppenheimer face à son film qui était sorti une seule semaine avant, en disant que peut-être que les gens n'ont tout simplement plus envie de voir un épisode 7. On se retrouve quand même une année avec Fast and Furious 10, Mission Impossible 7, partie 1, Transformers, je crois que c'est le 6 ou le 7e, si on compte les spin-offs. Enfin, c'est insensé, les gens ont tout simplement...
C'était la suite de Bumblebee.
Oui, voilà, Bumblebee, Indiana Jones 5, enfin quand même la suite d'un film, d'une saga qui a plus de 40 ans. Est-ce que vraiment les gens ont envie de voir ça, surtout pour 300 millions de dollars? Enfin, je trouve ça quand même assez absurde. Pour moi, ce qu'il faut repenser, c'est surtout le métier de producteur. Je pense que le meilleur exemple à prendre, c'est Netflix. Netflix, quand ils prennent des auteurs très connus comme Alfonso Cuarón, David Fincher, ces réalisateurs-là savent qu'ils ont carte blanche. On en pense ce qu'on veut de leurs films. C'est souvent pas leurs meilleurs qui sortent sur Netflix parce que, tout simplement, ils ne sont pas produits. Ils font ce qu'ils veulent dessus. Et un producteur, c'est un peu le rôle du méchant en ce moment. On dit, c'est le mec qui donne l'argent et tout. Non, un vrai producteur, c'est quelqu'un qui cadre une réalisation, qui dit... Bah pour ce film-là, c'est trop cher, il faut qu'on fasse autrement et tout. Et ce qui aboutit souvent à des idées beaucoup plus ingénieuses que les réalisateurs trouvent pour combler un manque de budget. Là, on a l'impression que c'est vraiment les producteurs lâchent l'argent parce qu'ils savent pas... Enfin, ils ont l'impression que ça va être rentable parce qu'il y a une marque derrière. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut y remédier parce que tu peux pas donner 300 millions à Indiana Jones. Enfin, comment espérer être rentable avec un tel film? Pareil pour Fast and Furious, quasiment 400 millions, alors que déjà le dernier a fait un score beaucoup moindre que les précédents, même s'il y a eu la pandémie, etc. Mais enfin, 370 millions, je crois 340, hors frais de marketing, c'est absolument insensé, c'est quasiment autant qu'Avatar, alors qu'à l'écran, à l'image, ça se voit pas. Enfin, moi, les 340 millions sur Fast and Furious 10, je ne les vois pas. Donc en plus, on a l'impression, nous, en tant que spectateurs, de se faire purement arnaquer. Parce que déjà que les films sont pas finis, mais en plus, ils n'ont pas l'ampleur qu'ils devraient, ou en tout cas qu'ils nous vendent. Donc là-dessus, il y a tout un truc à faire.
Donc ça veut dire concrètement, Auscult, ça veut dire concrètement repenser la place du studio dans la production du film, repenser finalement le métier du producteur qui est derrière, qui vulgairement donne l'argent et qui ne finit pas son film, c'est ça?
Bah c'est exactement ça, parce que les scénaristes, des acteurs, des réalisateurs, il y en a toujours eu des bons, il y en a toujours eu des mauvais. Ça changera pas. De toute façon, même si évidemment le fait de la cadence insoutenable imposée par le studio est principalement pas là-dedans, mais les producteurs, c'est justement celui qui contrôle le film. Quand on voit The Flash, on peut pas vraiment mettre la faute sur... Alors le réalisateur, je sais pas trop, parce qu'il a quand même eu des propos assez, comme on l'a dit, sur les effets spéciaux, qu'il pense être voulu pour donner une certaine vision au film. Je pense que c'est complètement faux, et que c'est juste les effets spéciaux sont pas finis, tout simplement. Mais... le producteur, son rôle, c'est vraiment ça, de contrôler à ce que le film soit bien produit au final. la finalisation, c'est lui, surtout aux États-Unis. En France, c'est un peu différent, c'est souvent le réalisateur qui a le director's cut. Aux États-Unis, c'est rarement le cas, c'est le producteur qui l'a. Donc si un film est raté, bah, c'est principalement la faute du producteur qui a validé le montage final, tout simplement.
Ouais, tout à fait.
Ouais, absolument. Et d'ailleurs, je sais plus quel réalisateur, je regardais une interview cette semaine, mais bon, là, le réalisateur m'échappe. Il disait qu'une des plus grandes peurs du réalisateur, c'était d'attendre le moment où ils doivent finalement regarder le film et voir si le montage final et la fin étaient bien. Et en fait, une des plus grandes peurs du réalisateur, c'est que le producteur en fait, lui dise qu'en fait, ça va pas du tout. Et que du coup, en fait, il ne peut pas valider le projet. Sauf qu'en fait, on constate bien aujourd'hui qu'il y a des producteurs, manifestement, qui valident un projet, un film qui n'est peut-être potentiellement pas terminé, qui n'est pas peut-être pas dans la veine d'un, je sais pas, d'un univers tel que DC Comics, Marvel, Star Wars, etc. Et que on se retrouve avec des producteurs qui ne volontairement ou involontairement, on ne sait pas, mais qui ne finissent pas leur film. À l'image un peu, je pense de, je vais reprendre cet exemple parce que moi je trouve quand même qu'il est vachement flagrant. À l'image de Hercule Poirot, le Mort sur le Nil, qui est clairement un film qui n'est pas fini, qui est totalement bâclé. Moi, ça me fait mal parce que j'aime beaucoup les enquêtes, j'aime bien le personnage de Hercule Poirot, qui est quand même hyper important dans l'univers de Agatha Christie, des enquêtes. Il a quand même inspiré énormément d'enquêteurs qu'on a, comme Adrien Monk dans la série Monk, Columbo, etc. Et le problème, c'est qu'on a un film avec un personnage qui est ultra connu, qui est la suite d'un film qui a très bien marché commercialement, et qui finalement, ce film-là, même si il a été reçu de façon assez mitigée, le deuxième, hein, Mort sur le Nil, mais qui effectivement n'a pas fait non plus de très 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 grosses entrées, peut-être qu'en France, il me semble effectivement qu'il a bien marché, mais pas forcément aux États-Unis. Mais le gros problème, c'est qu'on se retrouve avec un film qui n'est pas fini. Et en fait, moi, je pense que c'est cette question derrière de la place du producteur qui valide ou non un film. Et le réalisateur, dont je me souviens pas le nom, disait qu'il avait peur à la fin, quand le film était terminé, que voilà, il devait avoir cette espèce de validation. Aujourd'hui, on constate qu'on a des producteurs qui ne font absolument pas leur boulot et qui te valident un film qui va finir au cinéma. Et nous, comme tu l'as très bien dit, au Sculpte, on se fait avoir. C'est-à-dire que on y va, on se dit tiens, ça a l'air vachement bien, etc. On a vu la bande-annonce. Pour le peu que la bande-annonce soit bien montée, bon, j'avoue que c'est assez rare ces derniers temps, parce qu'on a des bandes-annonces qui sont super mal montées, à l'image d'ailleurs du troisième, Haunted in Venice, qui est une bande-annonce qui est ultra mal montée. Moi, ça m'a pas du tout donné envie de le voir, mais bon, je reste quand même optimiste, je me dis, ah, pourquoi pas, on en discutait d'ailleurs avec Julien, et voilà, on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des producteurs qui ne font pas leur boulot, et on a des studios qui ne terminent pas les films. Alors ma question, elle est toute simple, c'est qu'est-ce qui se passe du coup ? Est-ce qu'on continue à avoir des studios qui vont continuer dans ce sens de la marche et donc ne pas finir leur film, qui vont se planter au niveau des effets spéciaux, etc. Ou est-ce que enfin les studios vont peut-être se remettre en question, ce serait quand même vachement bien, et se dire bah oui, en fait le métier de producteur, faut qu'on le repense. Julien, comment ça va se passer de la place du studio ?
Alors là, on reste quand même dans le spéculatif. Hein,
bien sûr.
On va pas se mentir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, on parlait du coup du cas Warner avec DC. On sait pertinemment que la dernière sortie, on ne peut pas tout mettre sur le dos du réalisateur. C'est majoritairement si on se retrouve avec le naufrage The Flash, Shazam 2. Même son tout dernier film Blue Beetle, qui est sorti dans l'indifférence la plus totale, ce sont un petit peu les
et qui est le meilleur des trois.
Je ne rentrerai pas dans le débat. qui sont en fait les conséquences directes, les cadavres d'une ingérence totale d'un studio qui ne savait pas vraiment, et qui là on espère que ça ira mieux avec James Gunn à la barre, mais qui ne savait pas vraiment quoi faire de sa licence depuis le fiasco avec Zack Snyder. C'est un petit peu la base de tout ça, c'est que le Batman vs Superman pour la Warner devait être le film qui devait taper le milliard. Voulait déjà rattraper Marvel et Disney, sauf que Marvel et Disney avaient à peu près déjà 8 films de sortie avant de taper Avengers. Warner est allé très vite, a été déçu par le résultat commercial critique et l'accueil critique et spectateur de ce film-là. Et là, on commençait une série d'ingérences sur le schizophrène Justice League, et tous les toutes les productions qui ont pu s'en suivre, et ça se voit à l'écran, on voit littéralement qu'il y a une gestion un petit peu bicéphale, et que au bout d'un moment le studio a dû voir le budget monter et à se dire on arrête les frais, on sort et on verra ce qui se passe. Donc dans le cas de la Warner, c'est l'ingérence et le fait de un peu l'angoisse de tous les réalisateurs, un studio qui ne laisse pas la place au réalisateur de livrer sa vision. C'est arrivé depuis des années, on peut parler de Alien 3 de David Fincher, qui est un film qu'il renie encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui avait très fréquemment aux États-Unis, un studio qui voit une version finie ou pas, ou même au moment où en fait le studio vient sur le plateau, voit les rushs, qui n'est pas content et qui va dire au scénario, qui va dire au réalisateur, à partir de maintenant, on prend le contrôle, on prend le relais, et tu n'es plus que l'exécutant, tu n'as plus la vision sur ton film. Et à l'inverse, l'opposé, c'est Netflix, comme le disait très très bien Auskult, à aujourd'hui, même si, si je dis pas de bêtises, il commence un petit peu à changer sur certains...
Surtout sur les gros blockbusters.
Certains pays.
Sur les gros blockbusters.
Ouais, leur mode où maintenant ils sont un peu plus producteurs. De base, Netflix... sur ces Netflix Originals, n'était absolument pas producteur, mais distributeur exclusif. C'est-à-dire aller voir certains studios ou certains réalisateurs en disant « Je te file tant d'argent, tant de budget, tu fais ce que tu veux. En effet, je n'ai pas le droit de regard parce que je n'ai pas le droit de propriété intellectuelle. » En fait, un producteur, surtout a une part de la propriété intellectuelle du film. Netflix, sur ses contenus originaux, comme ils appellent ça, n'a pas de droit de propriété. La production, le produit fini n'appartient pas à Netflix. Par contre, le droit de distribution est exclusif à Netflix. Il y a des exceptions, on peut prendre par exemple en France la série 10% qui est diffusée sur France Télévisions et sur Netflix, d'autres séries américaines qui sont sur AMC et qui vont ensuite être sur Netflix aussi en parallèle. Mais tout ce qui est tagué Netflix Originals, c'est soit par exemple comme Annihilation de
Natalie Portman avec Nathan
de Garland. Ouais, avec Natalie Portman, c'était un film qui devait sortir en salle. Le studio a vu le résultat final et s'est dit « Oh mon Dieu, on peut pas sortir ça, ça va pas marcher. » Netflix a fait « Eh, bah moi je le prends, je te donne tant en échange. Par contre, tu oublies complètement ce film, tu ne pourras jamais le sortir en salle ou sur ta plateforme. »
Ça a été un carton. Il avait pas marché pour l'époque.
Je pense pas, attends.
Encore une fois, c'est toujours très compliqué de ça, en fait, d'avoir des indices exacts sur le succès ou non des contenus sur les plateformes. Oui, en général, quand un film va avoir beaucoup de visionnage ou de nombre d'heures de visionnage, comme ils aiment l'appeler, ils vont communiquer dessus, et sinon après c'est le silence radio. C'est une demande qui est assez récurrente pour les plateformes, c'est de dire donnez-nous des chiffres concrets outre que votre nombre d'abonnés, combien tu gagnes, tu perds d'abonnés, et pour quelle série, tel film, combien tu as d'heures de visionnage, avoir des métriques plus important, et ça aujourd'hui c'est encore assez opaque pour la plupart des studios. Mais donc oui, pour moi je suis entièrement d'accord, la fonction du producteur va certainement et doit, c'est certain, être repensée. On l'avait eu dans les années 80, à peu près 80-90, avec des petits réalisateurs qu'on connaît vaguement, qui sont George Lucas, Scorsese, Spielberg, qui ont complètement repensé la fonction du réalisateur. Des petits jeunes, tout à fait, mais qui ont un peu dynamité complètement comment en fait on pense, on réalise un film, et comment aussi la place d'un réalisateur doit se poser et qui a un peu dynamité le tout. C'était des grands rebelles hein, à l'époque, l'équivalent de la nouvelle vague en France. Donc je pense que là on est à nouveau sur un changement majeur dans l'industrie américaine. Quelle est l'issue? On ne sait pas. On n'a pas de boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est que les deux syndicats l'ont bien dit, ils sont prêts à une bataille longue, la SAG-AFTRA s'est préparée, les scénaristes ont été interviewés, ont dit on est habitué à la précarité, on s'est préparé, on est aidé, ça peut durer 6 mois, en fait ça ne change pas complètement notre quotidien. Certains reprendront, d'autres ne reprendront pas potentiellement. Et par contre, point très important, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très suivi par les Américains, et je le lisais, je crois que c'était France Info, un sondage aux États-Unis a été lancé, 72% des Américains sont favorables à la grève des scénaristes et des acteurs et soutiennent ce mouvement-là. C'est vraiment un mouvement d'ampleur aux États-Unis et qui a un rayonnement où d'autres industries regardent un petit peu du coin de l'œil, et potentiellement on aura un petit effet ricochet après dans quelles mesures, quels impacts par rapport à chaque système. En France, on ne produit pas un film de la même manière qu'aux États-Unis. Le mode de financement est complètement différent et c'est quelque chose qui pourrait potentiellement changer dans les années à venir avec Pathé et Logical Pictures. C'est un accord qui est lancé depuis quelques temps et Astérix et Obélix, en Empire du Milieu, est l'un des fruits de cette collaboration. Un très grand film, mais qui dynamite un petit peu comment on fait un film et on finance un film en France. Donc il y a des choses qui évoluent, tout le monde regarde un petit peu de loin ce qui se passe aux États-Unis, personne ne bouge réellement, mais c'est quelque chose qui va forcément faire bouger les lignes. Est un petit peu pour tout ce qui est sorti, on avait à l'époque du Covid la peur de se dire « Mon Dieu, mais on n'aura plus rien en salle !» Puis après, le Covid est terminé, on a vu tous les catalogues sortis, et tout le monde s'est dit « Mon Dieu, mais il va y avoir trop de films en salle !»
On a passé de cinéma.
Là, les chiffres tombent. Mais les chiffres tombent, on voit la fréquentation des salles en France est au beau fixe. Après, si on va dans les détails, mais comme de tout temps, oui, on a des moteurs, et la plupart des moteurs sont les films américains, parce que, oui, comme pour faire avancer une voiture, il faut un moteur pour que le véhicule avance, oui, merci. C'est un petit peu ça pour le monde du cinéma, c'est-à-dire que oui, majoritairement, les gros blockbusters américains attirent les spectateurs en salle. Après, on a de très beaux succès, on prend par exemple Anatomie d'une chute, on en parlait avant en off, et lui est plus de 200 000 entrées, et c'est à aujourd'hui, pour le moment, surtout en termes de démarrage, le plus gros succès pour une palme d'or depuis à peu près, je crois, 10 ans. C'est un très très beau score, il fait mieux que Parasite, je crois que c'est à peu près l'équivalent de Entre les murs, qui était sorti en début 2000.
C'est bien, c'est mieux, il a dépassé.
Oui, donc on est vraiment aussi sur une très bonne dynamique d'un cinéma plus indépendant, plus d'auteur, où on est assez friand en France et aussi en Europe de manière globale. Après, on le sait pertinemment, venir penser que le spectateur en globalité va repenser son mode de consommation, c'est un petit peu utopique. Il faudra évidemment toujours du film américain, il faudra toujours du blockbuster. Par contre, du blockbuster de meilleure qualité, c'est quasiment inévitable si les studios veulent aussi avoir un modèle de rémunération qui reste
bien. Pour prendre juste une petite minute, je prends juste une petite minute parce que on a beaucoup critiqué Warner, Disney, Netflix. C'est les gros studios, bien sûr. Faut aussi mettre en évidence que pour moi la vraie solution, ça va être les boîtes de production tenues par des acteurs. Barbie avec Margot Robbie, Deadpool 3 avec Ryan Reynolds. Première fois dans le MCU que Disney accepte de faire coproduction avec une boîte autre, tout simplement avec la boîte de production de Ryan Reynolds. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les studios vont devoir se mélanger avec des boîtes de production pour plus être les rois, les empires. Et pour moi, justement, cette grève va permettre de donner un gros coup de pied dans la fourmilière. Et j'espère que ça permettra au cinéma de grandir et de s'améliorer. Et de pas avoir Fast and Furious 13.
On espère en tout cas. Ouais, tout à fait. Ausculte, est-ce que tu veux dire un dernier petit mot avant de nous quitter ?
Oui, juste pour rappeler, on a beaucoup parlé évidemment des studios américains parce que c'est lié à cette grève-là. C'est aussi pour dire qu'il y a évidemment plein d'autres petits studios, que ce soit aux États-Unis et en Europe, qui font très bien leur boulot. Notamment en France, on a un panel de sorties de ciné gigantesque. Je pense, je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais parmi les meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur. On peut voir des films d'absolument tous les horizons. En France, on est quand même très bien lotis. Ouais. Donc même si les gros films blockbusters sont souvent ceux qui récoltent le plus d'entrées, on est parmi les pays où le cinéma français, enfin le cinéma national, fait les meilleures entrées. Vous verrez jamais dans le top 10 espagnol la moitié de films espagnols. Ce sera quasiment que des films américains. Pareil en Angleterre, pareil en Allemagne. En France, vraiment, on a un choix immense, et donc les spectateurs français vont peut-être pouvoir justement découvrir un peu plus de ce cinéma-là si les studios américains laissent un peu de place, donc c'est peut-être pas plus mal finalement pour nous, en tout cas à court terme.
En France, on aime le cinéma.
Ouais, tout à fait, c'est ce qui fait aussi notre force et l'attachement culturel aussi quand même un petit peu à cet art cinématographique qui est quand même très très fort, parce qu'on a aussi, nous aussi, on fait aussi, vulgairement, on fait des bons films. Écoutez, messieurs, je vous remercie. Vous avez été concis, précis et plein de connaissances et d'explications. C'est un sujet qui est d'abord d'actualité et qui est aussi, peut-on le dire, relativement sensible, parce qu'on est en train de finalement de se dire que le cinéma change et il ne cessera pas de changer, ce qui est un peu normal parce que l'art, c'est de l'humain et c'est la nature, et la nature est faite de changements. Mais c'est vrai quand même que voilà, le cinéma, pour nous cinéphiles, critiques, rédacteurs, on aime être proche, ça nous façonne aussi, ça fait notre quotidien et notre vie. Et quand on le voit changer, des fois, on se dit quelle direction va-t-il prendre ? Maintenant, on n'est sûr de rien, hein, on ne peut que faire des suppositions à partir de constats, voilà. Mais c'est vrai que voilà, la grève des scénaristes va ouvrir des portes, comme le dit très bien Love My Cinema, c'est un grand coup dans cette fourmilière pour essayer de voir un peu ce qui va en sortir, si
un
ça peut faire bouger pas mal de très grands coups, absolument, savoir un peu si ça peut bouger aussi bien au niveau, donc bien évidemment, des scénaristes, des acteurs, mais aussi des productions et des studios, et c'est là où ça peut commencer à devenir très intéressant. J'ai hâte de voir un petit peu dans quelques mois ce que ça, déjà l'impact que ça aura, parce que ce qu'on dit actuellement, effectivement, quelqu'un qui va écouter ce podcast ou réécouter ce podcast dans 2 mois ou 3 mois, ça n'aura pas du tout la même actualité. Il y aura des choses entre-temps. Mais je vous fais confiance pour que sur vos pages Insta respectives, vous puissiez donner les informations les plus claires et les plus actuelles possibles pour nos auditeurs. Messieurs, je vous remercie. Un grand, grand merci de votre participation. C'était super cool. Et puis, je vous dis à bientôt si ça vous a plu et si vous souhaitez revenir chez Peliprod.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup.
Et puis, peut-être à la prochaine.
À bientôt.
Peut-être à bientôt.
Au revoir.
Ciao.